Mesdames, Messieurs, chers auditeurs de VOA Afrique, bienvenue. Aujourd'hui, c'est la continuité de la Basketball Africa League qui se déroule actuellement au Caire avec la conférence du Nil. Le Petro de Luanda va tout à l'heure croiser le fer avec les forces armées et police du Cameroun. Pour le moment, ce sont deux équipes qui peuvent toujours prétendre à une qualification au play-off. Je vais bientôt vous lire le classement actuel de cette conférence du Nil, dominée par le Zamalek avec 3 victoires en autant de matchs. Les favoris égyptiens confirment ainsi leur statut. Derrière eux, il y a le Petro de Luanda qui a été jusque-là invaincu, mais qui a subi son premier revers face aux Zamalek que je viens de citer. Le Zamalek, donc, qui est parvenu à sortir de ce match-là grâce à une belle bataille, parce que c'était un match entre deux favoris, les deux équipes qui étaient jusque-là invaincues et qui avaient un peu survolé les débats. Maintenant que le Zamalek a pris le dessus sur le Petro de Luanda, le Zamalek est logiquement dans son statut de favori et logiquement également qualifié pour les playoffs avec ses 3 victoires en autant de sorties, les playoffs qui vont se dérouler à Kigali dans la deuxième quinzaine du mois de mai. Derrière ces deux équipes, comme je l'ai dit, considérées comme les favorites de cette conférence, on retrouve Cape Town Tigers. Les joueurs sud-africains sont parvenus à décrocher 2 victoires en 4 sorties. Ils sont également bien positionnés pour une éventuelle qualification en play-off. Maintenant, il s'agira de voir lequel de ces équipes pourra confirmer tout cela derrière le Zamalek. Maintenant, le Cobra Sport de Sud-Soudan également est une des équipes favorites et pour la qualification, bien sûr, pas favorite pour le tournoi parce qu'ils sont parvenus à redresser un peu la barre en ayant une victoire. Ainsi, derrière, ils ont 3 défaites. Mais avec la conférence du Sahara qui s'est déroulée à Dakar, on a vu que des équipes pouvaient se qualifier avec seulement 2 victoires. Donc, le Cobra Sport est toujours en lice. Derrière le Cobra Sport, on retrouve les forces armées et police basketball du Cameroun qui, comme je le disais tantôt, vont en découdre tout à l'heure avec le Petro de Luanda. Et enfin, le BC Espoir Foukache du Congo qui ferme la marche avec 2 défaites en autant de sorties. Mais ce qu'il faut retenir également, c'est que il y a des équipes qui sont à 3 matchs joués, il y en a d'autres qui sont à 4 matchs joués et il y en a 2 qui sont à 2 matchs joués. Donc ce ne sera qu'après cette journée-là et la journée de lundi et mardi, après que tous les matchs se soient déroulés et que tous les équipes soient au même niveau, qu'on aura la réalité des résultats. Mais pour le moment, retenez, comme je l'ai dit tantôt, que le Zamalek est devant et qualifié pour les playoffs en ayant joué que 3 matchs sur 5. Mais derrière, il y a 2 équipes qui sont à 4 matchs et qui n'ont pas encore assuré leur qualification. Concernant le match d'aujourd'hui qui va mettre aux prises le Petro de Luanda et les forces armées et police du Cameroun, il faut retenir que ce sont 2 équipes qui ont participé à la première édition de la Basketball Africa League qui s'était déroulée dans un contexte de Covid-19 à Kigali. Dans une poule unique, les deux équipes avaient montré des formes diverses, mais ce qu'on peut retenir, c'est que le Petro de Luanda qu'on voit cette année est beaucoup plus affûté, notamment physiquement, que le Petro de Luanda qui avait participé au club. Il s'agira véritablement pour eux de confirmer ce qu'on a vu sur les 2 premiers matchs où ils sont sortis victorieux, mais également sur le match face aux Zamalek où ils ont été battus, mais où ils auront livré une grosse bataille jusqu'à la fin. Donc aujourd'hui, ce sera un match très important, autant pour le Petro de Luanda que pour les forces armées et police. Parce que le Petro de Luanda aussi peut assurer sa qualification dès aujourd'hui en rejoignant le Zamalek avec 3 victoires en 4 sorties. Maintenant, au-delà de la qualification, il s'agira pour le Petro de Luanda de reprendre de la confiance parce qu'ils ont été battu par le Zamalek, mais il s'agira aussi pour les forces armées et police de conserver leur position parce que lors de leur dernière sortie, ils avaient le match en main face au Cape Town Tigers. Ils avaient le match en main jusqu'à la fin. Ils ont perdu sur le fil, une défaite très frustrante qu'il va falloir gommer et surtout il va falloir confirmer le statut d'outsider, parce que comme on l'avait dit, les forces armées et police ont participé l'année dernière, et comme toutes les équipes qui ont participé l'année dernière, ils étaient vus, ils sont toujours vus d'ailleurs par beaucoup comme des challengers, des outsiders qui peuvent prétendre aux places qualificatives derrière les intouchables du Zamalek. On dit intouchables, mais bon, avec le Monastir et la phase de Dakar, on a vu qu'aucune équipe n'était intouchable, parce que le Monastir qu'on voit va perdre, a perdu la première place finalement au profit du REC. Donc c'est un tournoi assez ouvert comme celui de Dakar. Il y a certes moins d'intensité, on le soulignait la dernière fois avec Eugène et Georges, mais comme le disait Georges, les surprises peuvent venir de partout, et la dernière fois la surprise est venue de cette victoire-là des Cape Town Tigers face au FAP dans un match qu'ils n'ont pas maîtrisé de bout en bout et que tout le monde les voyait perdre, mais ils ont eu les ressources pour revenir. Ce qui montre que cette Basketball Africa League affiche un certain niveau et surtout peut encore en afficher davantage, peut réserver des surprises, et c'est tout ce qu'on demande, c'est tout ce que demandent les amateurs de basketball. Pour revenir au match d'aujourd'hui, donc je disais c'est un match déterminant entre le Petro de Luanda et les forces armées et police qui va avoir lieu dans une vingtaine de minutes et qui sera suivi dans la soirée par le match Espoir contre Zamalek du Caire. Mais concernant le Petro de Luanda, pour revenir à cette équipe-là, parce que c'est véritablement par rapport à son passé, c'est pas une surprise de voir cette équipe s'imposer, mais par rapport au niveau qu'ils avaient affiché l'année dernière lors de ce même tournoi, c'est une surprise de les voir à ce niveau, de les voir afficher une forme aussi étincelante face à des équipes qui, il faut le dire, sont également des équipes fortes. Il faut aussi parler de joueurs comme Carlos Moraes, qui l'année dernière nous a laissé un peu sur notre faim en affichant une forme déclinante. Beaucoup d'ailleurs disaient que sa carrière est terminée. Beaucoup disaient que sa carrière était terminée et que voilà, il ne pourrait pas se relever d'un aussi médiocre tournoi, mais cette année on l'a vu, tout comme l'ensemble de ses coéquipiers, très affecté physiquement, et je pense que c'est l'un de leurs premiers atouts, c'est l'un des atouts majeurs qu'ils vont faire valoir lors de ce tournoi-là, et ils ont déjà commencé à le faire, et il faudra reprendre, être sur cette même lancée, continuer aujourd'hui. Donc, pour revenir à cette équipe des forces armées et police, ils ont perdu leur joueur principal en la personne de Aruna, qui est à l'AS Salé. Mais ils sont quand même parvenus à arracher une victoire. Sur le deuxième match, je le disais tantôt, ils ont subi une défaite frustrante, mais une défaite également qui nous montre qu'on ne peut toujours pas juger cette équipe des forces armées et police du Rwanda, parce qu'ils n'ont pas encore eu d'adversité, ils n'ont pas encore rencontré d'équipe qui soit à un niveau qui puisse permettre de réellement juger de leur capacité. Maintenant, en basketball, tout est possible. Entre des équipes de pareil niveau, tout est possible. Donc, il va falloir rester sur ses gardes du côté du Petro de Luanda, parce que ce sera un match où, comme eux, les forces armées et police du Cameroun vont essayer de se relever. Maintenant, concernant le tournoi plus globalement, il faut souligner que cette conférence du Nil affiche pour le moment, à part quelques matchs, un niveau moins intense que la conférence du Sahara. Mais il faut aussi reconnaître que dans cette conférence du Sahara-là, il y avait beaucoup d'équipes et surtout beaucoup de joueurs majeurs qui avaient évolué l'année dernière dans cette Basketball Africa League, en commençant par Crawford, qui a été recruté par l'équipe de Seydou Legacy Athletic Club, une équipe guinéenne novice dans le tournoi, mais qui est parvenue à se qualifier pour les playoffs en ayant recruté un entraîneur serbe très expérimenté et surtout très tacticien, qui est parvenu à les qualifier malgré un groupe qui, il faut le dire, n'était pas le plus fort dans cette conférence du Sahara. L'autre chose qu'il faut retenir de cette Basketball Africa League là, c'est que il y a le programme Bell Élevé, qui est un programme cher au président de la Basketball Africa League, le Sénégalais Amadou Gallofal, et qui est un tournoi qui permet à chaque équipe de recruter un joueur, en tout cas un académicien de la NBA Academy qui se trouve à Sali au Sénégal, pour justement faire découvrir à ces jeunes-là le haut niveau, le basketball de haut niveau, à travers cette antichambre-là de la NBA, qui est la Basketball Africa League, parce qu'il faut le dire maintenant, comme la G-League, la NBA possède une autre ligue où des joueurs peuvent se montrer, où des joueurs peuvent monnayer leur talent véritablement. Maintenant, il faut aussi savoir qu'il y a des équipes qui sont novices, mais qui, comme le Seydou Legacy Athletic Club, parviennent à se montrer dangereux, parviennent à s'imposer, parviennent à imposer le rythme en s'appuyant sur des coachs expérimentés. Le règle du Rwanda également, même si l'année dernière, le Rwanda avait une équipe qui l'a représentée à travers les Patriots. Cette année, ils ont amené une nouvelle équipe avec des joueurs qui, certes, avaient participé l'année dernière, mais dont l'ossature n'était pas là l'année dernière. Donc, c'est une nouvelle équipe, mais avec un vécu. Le vécu, ils ont pu le tirer de l'équipe rwandaise qui avait participé l'année dernière. Maintenant, ce vécu-là, qu'est-ce que cela leur a permis? Ça leur a permis de se qualifier en terminant premier de la conférence Sahara. Une énorme surprise au vu de l'autre équipe présente dans cette conférence qui faisait office d'épouvantail, à savoir le Monastir, qui était parvenu à garder son ossature de l'année dernière où ils étaient finalistes. Et aussi, au-delà de l'ossature, ils sont parvenus à se renforcer avec des joueurs comme Solo Diabaté, qui, il faut le dire, était le facteur X du Zamalek l'année dernière. Donc, c'est un tournoi où, dans la conférence Sahara, tout comme dans la conférence du Nil, les équipes essaient de se renforcer intelligemment. Et dans cette conférence du Nil-là, comme je le disais tantôt, on a assisté à des matchs de moindre intensité lors des deux premières journées. Mais sur la fin, quand même, on a vu des équipes qui sont parvenues à élever leur niveau de jeu, qui sont parvenues depuis deux matchs, en tout cas, qui parviennent à élever leur niveau de jeu avec le match Captain Tigers contre FAP, qui a été d'une intensité redoutable lors du quatrième quart-temps, alors que lors des trois premiers quart-temps, on se plaignait justement d'un niveau très faible et d'une maladresse très élevée des deux équipes. On a vu une fin de match époustouflante et un final vraiment qui ne nous a pas laissé sur notre faim. Maintenant, hier, on a vu un match très disputé avec un niveau très élevé entre le Petro de Luanda et le Zamalek du Caire. C'est dire que cette conférence du Nil, même si elle est partie sur un niveau assez timide, est en train de prendre des proportions assez satisfaisantes en termes de niveau, en termes d'intensité et en termes de qualité de jeu. Maintenant, il va falloir continuer sur cette lancée et surtout, il va falloir que les équipes se montrent moins maladroites dans les séquences de jeu, notamment les séquences offensives où il y a beaucoup de précipitations souvent, il y a beaucoup de maladresse et où les équipes également sont souvent décriées pour leur qualité de jeu qui n'est pas au niveau, en tout cas, où on voudrait le voir dans une ligue qui se veut être dans les années à venir antichambre de la NBA, la plus grosse ligue en termes d'investissement, en termes de qualité, en termes de spectacle dans le monde. Maintenant, je serai bientôt certainement rejoint par Eugène Fewa Pelema, qui est, comme vous le savez tous, une légende du basketball africain, mais aussi un formateur chevronné qui participe au développement du basketball africain à travers la Centrafrique, son pays d'origine. Et il faut le dire, en Afrique, on a besoin de personnalités comme ça. Comme je disais en Afrique, on a besoin d'infrastructures de qualité. On a également besoin de dirigeants comme Eugène Péwa Pelleman, que je viens de citer, qui fait un excellent travail dans, avec le basketball centrafricain. Au Sénégal également, on a quelqu'un comme Amadou Gallo Fall, qui est le président de la Basketball Africaine. Il faut savoir que Gallo a été l'un des premiers à lancer une académie au Sénégal. L'académie, c'était Sid. Et Sid est parvenu à sortir des joueurs. Sid est parvenu à tirer son épingle du jeu. Et Amadou Gallo Fall, à travers Sid, s'est fait distinguer. Et maintenant, il a occupé des postes comme dirigeant de la NBA Africa. Et aujourd'hui, c'est lui qui dirige cette première ligue que la NBA organise hors des États-Unis. Maintenant, des dirigeants comme Amadou Gallo Fall, il y en a en Afrique, mais il faudrait surtout leur donner les moyens de développer le basketball africain. Et le basketball africain ne pourra être développé véritablement qu'avec des moyens. On l'a vu avec le football. Les pays africains mettent maintenant énormément de moyens dans la formation, dans les infrastructures. Ici au Sénégal, on l'a vu avec le stade du Sénégal qui a été inauguré juste après le stade des Lions à la Coupe d'Afrique. Mais je pense que dans le basketball également, il faut repenser la formation, il faut repenser la politique des infrastructures et surtout, il faut repenser les investissements matériels et surtout les investissements financiers pour permettre à ce basketball-là de se développer dans le continent, comme le football actuellement, parce que il y a du talent, il y a beaucoup de talent, il y a beaucoup de talents africains, mais en général, pour terminer leur formation, afin d'afficher un niveau aussi satisfaisant que les basketteurs occidentaux, ils sont obligés de très tôt s'exiler, alors que normalement, ils devraient pouvoir rester en Afrique, continuer leur formation en Afrique et atteindre le niveau qu'ils veulent en Afrique. Il y a des pays qui le font, il y a l'Égypte qui le fait, il y a la Tunisie qui le fait, il y a l'Angola qui le fait, qui met énormément de moyens dans le basketball. Et les moyens que les pays africains mettent dans le basketball, souvent on les retrouve dans les résultats. Parce que quand on prend un pays comme l'Angola, ça veut dire que leurs investissements n'ont pas payé parce que les Angolais ont, pendant la décennie précédente, dominé littéralement le basketball masculin en Afrique. Donc, ce sont des investissements qui payent à la longue, mais ce sont des investissements surtout nécessaires pour que les jeunes Africains pétris de talent puissent littéralement exploser aux yeux du monde. Je disais tantôt que les Égyptiens le font, mais l'exemple de l'Égypte est un exemple très frappant, surtout au niveau de la politique financière, parce que on retrouve des clubs qui investissent énormément dans les infrastructures, même en dehors du sport, et ce sont des infrastructures qui produisent des revenus qui leur permettent de faire fonctionner leur club et de leur donner un niveau satisfaisant, un niveau qui permette d'éviter la fuite ou bien l'exil des talents les plus importants. Je pense que c'est
Hubert. Ouais. Célina, bonjour. Je suis arrivé aussi.
Bonjour, Eugène.
Oui.
Donc, c'est un plaisir de te retrouver.
Merci, moi aussi. Le plaisir est partagé. Tu es avec quelqu'un d'autre ou tu es seul? Ce que tu étais en train de dire était très intéressant, parlant de l'investissement que les pays africains doivent faire pour pouvoir justement permettre au basketball d'atteindre certains niveaux, puisque nous sommes en retard par rapport au football. Et il est vraiment très, très important que nous puissions le faire. Sinon, on sera toujours derrière. Et cette ligue que la NBA et FIBA ont pu mettre en place pour le développement du basketball en Afrique, cette ligue professionnelle ne sera pas rentable. Donc, il va falloir qu'on rattrape notre retard là-dessus. Et il va falloir qu'en fait, au niveau des clubs, d'abord des fédérations, que les gens soient un peu plus structurés, parce que le travail est fait par la fédération qui aide les ligues qui aident les clubs, et ainsi de suite, qui aident les académies, qui développent les infrastructures. Les gouvernements doivent être impliqués, parce que comme dans tous les pays du monde, on prend par exemple les États-Unis à l'équipe de Washington Wizards, et les Wizards, pour jouer, ils sont obligés de travailler avec le gouvernement de DC. Et donc, par exemple, la construction des stades font partie de quelque chose que le gouvernement est obligé d'investir dans. c'est aussi le gouvernement qui travaille avec les certains développeurs sur le plan de la ville, que ce soit les restaurants, le transport, ainsi de suite, pour pouvoir faire en sorte que le sport soit plus que rentable dans la ville de Washington D.C. par rapport aux Wizards. Et donc, les gens doivent comprendre que c'est un travail d'équipe qui pourra faire nous permettre d'atteindre ce niveau. Mais c'est à la fédération qui est responsable de développer le basketball dans les pays dans lesquels ils sont, qui doit travailler avec FIBA pour former les encadreurs techniques, les administrateurs du basket, et le tour est joué. Donc c'est un peu ça, Sedina, juste pour compléter un peu ce que tu as dit. Je ne sais pas
si... également qu'il était important que des personnes, des légendes du basketball africain aussi expérimentées, engagées que toi, puissent également s'associer, comme c'est le cas avec toi en Centrafrique, que d'autres pays également puissent suivre l'exemple. Parce que pour développer un sport, il faut également que les praticiens, les amateurs et surtout les passionnés puissent être aux commandes, parce qu'ils vont essayer de trouver les moyens nécessaires et surtout ils vont faire les investissements adéquats pour que le basketball puisse se développer sur le continent.
Tu as totalement raison, parce que celui qui ne comprend pas le sport ne peut absolument pas faire le travail. C'est vrai que quand on prend par exemple la NBA, on sait que David Stern n'était pas un basketteur, mais c'était un manager, mais c'était entouré des gens qui avaient joué au basketball, des gens qui ont permis au basketball de se développer. Et ça a permis justement l'émergence de la NBA comme étant aujourd'hui aux États-Unis probablement le meilleur produit professionnel. Parce que ici, c'était la NFL qui était devant tout le monde, mais le produit NBA en termes de qualité est aujourd'hui le meilleur produit. Ça a même passé celui de la NFL qui était en perte de vitesse et qui est en train de reprendre un peu du régime. Et c'est vrai qu'on a besoin, et ça c'est le problème justement que nous avons en Afrique, c'est l'après-carrière, parce qu'il y a beaucoup de joueurs de basketball. Après avoir joué au basketball, ils ne s'intéressent plus du tout au basketball. Ils n'aident plus le développement du basketball de leur pays. Ils ne transfèrent même pas leur savoir aux plus jeunes qui arrivent derrière. Mais je crois qu'il appartient aussi à la fédération, justement, de créer un statut pour les anciens, les anciennes gloires, pour qu'ils puissent justement être impliqués, comme la NBA le fait. Elle travaille avec tous les joueurs de NBA qui y ont joué et leur donne des rôles à jouer pour le futur, ce qui fait l'avantage de la NBA.
Et je pense que c'est ce qui également devrait être de mise en Afrique. On le voit petit à petit, mais je donne par exemple l'exemple du Sénégal. On veut associer les anciens, mais on refuse de mettre les moyens. On prend quelqu'un comme Boniface Ndong. On veut qu'il dirige l'équipe nationale, mais on le fait à la pige. C'est pourquoi tout à l'heure je disais que les investissements consentis dans le football ne le sont pas encore dans le basketball et qu'il faudrait le faire pour que le basket puisse se développer. Pour revenir, j'ai eu le temps d'en parler, mais comme tu viens d'arriver, je te laisse un peu développer, parce que moi je disais que les forces armées et police du Cameroun ont perdu leur dernier match sur le fil, mais ils l'ont perdu surtout parce qu'on ne peut pas pour le moment juger du niveau réel de cette équipe-là, parce qu'ils n'ont pas encore eu l'adversité nécessaire devant eux. Lors de leur dernier match, ils l'ont eu dans le quatrième quart-temps et ils ont perdu le match. Maintenant, aujourd'hui, ils l'auront pratiquement sur toute la rencontre et on va voir ce que vaut de manière intrinsèque cette équipe des forces armées et police du Cameroun. Du côté de Petro de Luanda, la chose qui m'a le plus marqué, et je pense que je te l'avais dit la dernière fois, c'est que cette année, ils sont venus avec une équipe beaucoup plus affûtée physiquement. Et quand le talent est là et que physiquement les joueurs font le nécessaire, je pense que c'est le résultat qu'on a vu qui se traduit par deux victoires.
Tout à fait. En tout cas, comme tu l'as dit, hein, aujourd'hui, ils auront grosse affaire parce qu'ils jouent contre cette équipe du Petro Luanda qui, par surprise, hein, j'étais surpris hier que le Zamalek a pu défaire le Petro de Luanda. Et Cape Town a pu battre cette équipe du Sud-Soudan Cobra Sport Club, ce qui le place à la troisième place. Donc les forces armées et police actuellement sont quatrième. Ce match, ça va être très très dur pour eux. Comme le basket, c'est un sport, il n'y a pas de transitivité. On ne sait jamais, ils vont bien jouer. Mais je sais qu'il y a plus de chances que le Petro l'emporte aujourd'hui. Et si tel était le cas, eh bien, ça mettrait les forces armées et police, ça les garderait à la quatrième place. Et là, ils seront toujours qualifiés. Mais ils auront un dernier match à jouer, je pense, contre cette équipe des Tigers. Et je crois que Foukash aussi, du Congo RDC, aura deux matchs à jouer. Et donc, ça permettra de voir exactement ce qu'il en est. Donc, les FAP, s'ils jouent comme ils ont joué la dernière fois contre cette équipe de Cape Town Tigers, ils n'auront aucune chance de pouvoir, quant à ça, l'emporter sur le Petro de Luanda, qui est une équipe chevronnée qui a déjà gagné le titre des clubs champions plusieurs fois avant que cette ligue ne devienne professionnelle. Et donc, ça nous permettra de voir ce qu'il en est, hein, parce qu'on sait que là, aujourd'hui, Foucache jouera aussi contre les Amalek. Ce ne sera pas un match facile pour eux, avec ce qu'on a vu faire les Amalek hier. Et en plus, malheureusement pour Foucache, ils devront jouer ensuite contre cette équipe de Petro. Et donc, c'est à la fin qu'ils joueront contre cette équipe des Tigers, qui a déjà gagné deux matchs.
Ouais.
Et donc, qui s'est positionné, parce que les adversaires qui la suivent, c'est-à-dire les Cobras et FAP, ils les ont battus tous les deux. Et donc, même si Tigers venait à perdre contre eux, je suis convaincu que Tigers sera qualifié après ce match qu'ils ont gagné, parce que ça va être impossible, excepté si Foucache crée le miracle et puis tout d'un coup se mettre à jouer comme les Golden State Warriors. C'est ça, c'est un autre niveau, parce qu'on a vu qu'il y avait des problèmes. Donc aujourd'hui, je crois que les FAP jouent quand même un va-tout. Est-ce qu'ils vont mettre tous leurs efforts dans ce match, ou est-ce qu'alors ils vont préférer se réserver, mais quoique ils pourraient jouer à fond puisqu'ils ont un jour de repos entre ce match-là et le match de lundi. Et donc, si j'étais eux, j'essaierais de jouer le Kapasa à fond pour voir s'ils peuvent mettre en difficulté cette équipe de Petro de Luanda, en essayant de jouer justement la défense de zone que le Zamalek a pu mettre en place contre eux et qui les a largement gênés, et qui a permis aux Amalek de l'emporter largement durant ce match-là.
Mais le plus difficile pour les forces armées et police, c'est qu'ils ont un calendrier plus compliqué que les autres équipes.
Oui, c'est vrai, vrai.
Parce qu'ils n'ont pas encore joué les Amalek.
Oui, c'est vrai.
Et ils vont jouer aujourd'hui le Petro de Luanda. Donc eux, les matchs qu'ils devaient négocier, ils en ont perdu un, et ils l'ont perdu de manière un peu désinvolte, si je peux m'exprimer ainsi, parce que c'est un match qu'ils maîtrisaient quand même.
Oui, tout à fait. En tout cas, comme tu l'as dit, le restant de leur match est vraiment sont très difficiles, et donc ce ne sera pas facile pour eux. De toute façon, que ce soit eux ou Foucache, ils vont jouer et Zamalek et Petro, et je crois que FAP va jouer quand même le Cobra Sport du Sud-Soudan, et s'ils peuvent gagner ce match, ça va les positionner et ça les gardera à la deuxième place, en tout cas. Donc, aujourd'hui, c'est... Oui.
Oui, mais on a aussi vu que le Cobra Sport, même s'ils ont de nouveau perdu, ils affichent souvent un niveau, une intensité de jeu qu'on n'a pas encore vu chez les FAP. Et je pense que, bon, ce sera peut-être la gestion de l'effectif dont tu parles souvent, et surtout l'intensité que les équipes vont mettre dans les deux dernières journées.
Ben, nous sommes, chers auditeurs de la Voix de l'Amérique, partout en Afrique de l'Ouest, de l'Est, du Centre, du Nord, du Sud. Nous vous retrouvons pour ce match qui va opposer les forces armées police au Petro de Luanda, tout de suite au Caire, dans le groupe du Nil. Ça va être un match très difficile pour les FAP. Le Petro de Luanda a déjà gagné deux matchs, mais FAP en a gagné un seul. Et aujourd'hui, c'est leur troisième match. S'ils pouvaient l'emporter, ils feraient une bonne chose. Mais nous allons dans le direct et on va voir un match qui va être, du moins, je le suppose, très disputé, puisque Petro voudra gagner et FAP voudra gagner. Donc, à tout à l'heure, pendant les temps morts.
Très, très physique. Et puis là, comme on peut le voir, les Angolais, comme d'habitude, il n'y a pas de gros changements finalement dans ce starting 5 angolais.
Un 5 classique.
Voilà, exactement, qu'on a trouvé hier.
Voilà, on a aussi avec nous Étienne Endurant qui sera nos yeux, nos oreilles pour nous apporter quelques biscuits savoureux. Bonsoir Étienne.
Bonsoir messieurs. Alors pour l'instant je suis derrière, mais je ne suis pas à la buvette non plus. Hein. Les biscuits, vous irez les chercher vous-même après le match.
Dans le jargon, les biscuits, vous savez.
Oh, je sais bien. Je vais essayer de vous donner quelques petites galettes.
Allez, premier ballon un peu difficile à contrôler. Fabrice Yaga, remise en jeu. Ligne de fond, Cyril Lialé qui est intronisé dans le 5 de départ. Petite révolution là du côté du Pape.
Tout comme Bayers hein, d'ailleurs. Lialé. Numéro 21.
Allez, la petite feinte en se retournant. Cyril Lialé qui ouvre le bal. Tundao. Moraes, short corner pour Aboubakar Gakou
qui continue sur la lancée. Hier il a eu un très très bon match malgré la défaite, un joueur qui arrive à plus en plus à s'exprimer offensivement mais qui est un travailleur d'exception de ce côté-ci justement du terrain en défense.
Et Akumenzo devant Yannick Moreira
avec différence de taille à l'intérieur.
Marché au départ soufflé par M. Paul Tourmé des États-Unis. On aura Yann Davidson de Madagascar et Mbaye du Sénégal. Ce sera notre trio arbitral pour ce premier match. Allez, Moreira. Moraes. Mbao. Allez, force de bas. Yannick Moreira qui va essayer de travailler. Oh, qu'est-ce que c'est bien fait, le travail de footwork.
Et quand Moreira commence bien le match, c'est bon pour Petro parce qu'on sait que son apport offensif, justement à partir du bloc, est très très important.
Etienne, est-ce que vous avez des infos, notamment hier, il est quasiment pas entré dans le 3e ou 4e quart-temps. Est-ce qu'il avait un souci? Comment vous l'avez senti à l'échauffement?
On était très, très surpris hein, qu'il ne joue quasiment pas de la deuxième mi-temps. Ah, écoutez, à l'échauffement, j'ai rien vu de particulier. Je ne crois pas qu'il ait de blessure. Quand on voit cette première action qu'il s'est gardée pour lui-même, je pense qu'il est à 100%. Il n'y a pas de souci.
Allez, Moreira encore lui. Contré par Bayer, qui va s'y reprendre. Rebond Bayer. Allez, ça va repartir. Almeida sur sa main gauche.
Qui a changé son angle à la dernière seconde pour revenir sur cette petite patte gauche.
François Yenge qui réclame la faute, qu'il n'obtiendra pas.
Il y avait beaucoup de concentration hein, côté camerounais avant cette partie. Il n'y avait pas vraiment d'urgence. Hein. Toujours les regards fermés, mais très concentrés. C'était vraiment intéressant de voir à quel point ils s'encourageaient tous, malgré l'urgence quand même de ce match-là et de cette victoire obligatoire aujourd'hui.
Ils ont trois finales. Ils ont trois finales. Ce soir contre le Petro, lundi contre Cobra Sport et mardi contre le Zamalek. Trois finales à jouer. Il va falloir en prendre au moins une.
Ah, c'est peut-être le bon match parce qu'on sait que le Petro il est sur un back-to-back.
Exactement.
Et quand on regarde un petit peu l'historique des back-to-back à la balle, on sait que les équipes ressortent parfois fatiguées. Donc s'il y a bien un match où le FAP peut aller chercher, enfin je peux aller chercher peut-être les trois matchs,
mais
celui-ci est de bon augure pour eux.
Il faudra en tout cas commencer par celui-ci. 4 partout pour l'instant. Avec remise en jeu latérale, Carlos Moraes. Et la gestion physique, hein, vous le disiez Jacques, va être importante aussi dans ce match. Ils sont en back-to-back avec la débauche d'énergie d'hier contre le Zamalek. Ça peut
physique
jouer.
Et mental, ouais, physique et mental.
Allez, Gakou, Moraes, Mbao, percussion, Aboubakar, Gakou, qui va être court. Et la relance pour Almeida, Lialé. L'écran d'Akumenzo. Et il se l'est gardé pour lui-même. Et il n'y aura pas la réussite au bout. Comme ça, Alves. Moreira.
Ah, il y a des belles connexions quand même à l'intérieur avec Moreira.
Et c'est vrai que Taïje Bayers, avec ses centimètres, pose pour l'instant beaucoup de problèmes. Hein. À Moreira. Allez, bagarre là-bas sous le panier, le ballon va sortir en touche.
Et je veux dire, moi j'avais ça comme une clé du match, cette équipe de Fab qui pour moi est très très physique, mais qui manque d'un intimidateur dans la raquette. Je trouve qu'avoir Bayer justement à ce moment-ci face à un Moreira qui est de plus en plus offensif, c'est de bon augure.
C'est vrai que Wang Mené pour l'instant il a un peu déçu, mais on sait qu'il est capable de très bonnes choses. Ouais, et c'est Bayer qui lui succède dans le 5.
Voilà, et encore une fois la taille, je dirais que Wang Mené c'est plutôt un big man au sol qui aime bien prendre des positions. Il en a pris des bonnes positions au rebond hein, d'ailleurs, mais par rapport au match-up là avec Moreira, je préfère les centimètres.
Vous avez tout à fait raison, Akumenzo. Il va être très très long ce tir. Rebond Cédric Moreira.
Oh là là,
point, point center.
Comme on aime.
En mode point center. Allez. Oh, ça c'est allez. Bien fait.
Et la première alerte de ce match. Carlos Moraes qui trouve Cédric Moreira dans la peinture pour ce dunk.
Ouais, première grosse erreur défensive de FAP.
Allez, on va travailler en dessous, Byers. Short corner,
pourquoi pas.
Et ça fait ficelle.
Coup à coude les deux équipes. 6 partout.
Et tous les ballons sont aimantés par Cédric Moreira. Qui a peut-être envie de faire mentir son coach hein, sur la façon dont il a utilisé hier. Aboubakar Gakou en percussion.
Ah, c'est beau.
Jump hook. Soyeux, Aboubakar Gakou.
Et vraiment, le plus on avance, le plus il nous montre des choses. Bien sûr, on connaît son shot à 3 points. C'est rebond offensif, mais voilà, un toucher pareil pour un big man. Ça, on le découvre au fur et à mesure de la compétition.
Akumenzo qui va travailler.
Il est physique, il est physique.
Moreira, rebond Bayer. Le ballon intercepté. Il va revenir dans les mains de. Y aller, ça ne rentre pas. Allez, Gonçalves. Dundao, contre-attaque.
La petite puce angolaise, Childe Dundao, qui score.
Ah, ça va être un duel d'ailleurs de petits gabarits. Hein, entre Yale et Dundao, ça peut être intéressant à voir.
Ouais, bien splitté d'Almeida. Dommage, je pensais qu'il allait faire le plus dur.
Allez, encore Dundao, il va ressortir pour Gonçalves. Le rebond, Aboubakar Gakou, dans le corner, Dundao une seconde fois, ça ne rentre toujours pas. Et c'est Almeida qui va relancer les forces armées police. Et faute de Cédric Meroya.
Ils doivent faire attention, hein. On sait trop, on sait qu'ils aiment bien Arti et derrière, il y a 3 points.
Allez, premier temps mort de ce match, on revient dans un instant.
Temps mort demandé par cette équipe de Petro de Luanda, 10 à 6 pour le Petro de Luanda, mais on voit quand même un jeu assez équilibré entre les FAP du Cameroun et cette équipe de Petro. D'ailleurs, rappelons-le que hier, cette équipe de Petro avait joué un match très difficile contre les Zamalek du Caire, d'Égypte, et qui s'était incliné de 13 points. Ils ont fait énormément d'efforts et ça peut se voir là sur cette dernière attaque où on voit Moreira du Petro faire une faute sur D'Almeida de FAP. On voit que la fatigue y est, que le repli défensif est inexistant. Pour peu que cette équipe de FAP aurait pu accélérer, c'était une contre-attaque réussie. Mais lorsqu'ils ont réagi, le joueur du Petro a fait cette faute. Le match, de toute façon, paraît équilibré pour l'instant. Ce n'est que le premier carton et on va voir à la fin de ce premier carton, ça prend une idée, donner une idée un peu plus claire pour voir si le match dans le temps et dans la durée sera serré ou alors une équipe prendra largement l'avantage. Donc les FAP devraient profiter de leur fraîcheur puisqu'ils se sont reposés hier et d'essayer de l'emporter ou du moins d'accrocher cette équipe du Petro qui a l'air un peu épuisée. Ils n'ont pas l'air d'avoir récupéré complètement, que ce soit physiquement, mentalement et émotionnellement, sur la défaite qu'ils ont enregistrée hier. On va voir dans les minutes qui suivent. À 4 minutes 30, 15 secondes de la fin de ce carton, le score est de 10 à 6. On repart dans le direct.
Quel est votre premier ressenti de votre position très très proche du terrain?
Alors écoutez, le tournoi a été très assidu, hein, côté François Nyégué, qui a beaucoup, beaucoup mis l'accent sur Aboubakar Gakou, qui trouve qu'il a beaucoup trop de liberté. Il a également parlé de couverture, notamment en défense de l'intérieur. Et surtout, surtout, à la fin, il disait, faites courir ce ballon. Continuez à les faire courir, ça va être la clé.
Ouais, il n'a pas tort, hein. Cette équipe a joué hier, on le rappelle. Ce serait bien de l'épuiser en défense. Allez, Dundao, la fin de tir. Allez, toujours Dundao. Salve, Yone Pedro qui est entré en jeu, qui perd le ballon.
Ah, ils n'ont pas trouvé, il y avait un beau mismatch là avec Pedro, ils n'ont pas été capables de simplifier leur jeu pour juste aller chercher.
Voilà.
Chercher la petite passe, le petit jeu intérieur.
Allez, faute de Dundao sur Lialé. Mais c'était du 50-50. Hein. Regardez, ouais, avec son bras gauche, ouais, voilà, qui écarte Dundao. On pouvait aussi siffler faute offensive. Lialé. On essaie de mettre d'Almeida. Almeida en position, mais ce n'est pas simple. Akumenzo, il sera court. Moraes, Gonçalves. Et bonne bagarre là-bas. Sous le panier, Yone Pedro. Et pour l'instant, bien contenu par Akumenzo.
Oh là là,
hey, one.
Vous l'aviez dit, il était bien contenu à Akumenzo qui vraiment utilisait le haut de son corps pour l'empêcher en raquette. On voit il garde vraiment la pression au maximum. Malheureusement, les centimètres, on parlait à la dernière seconde. Et
oui.
Beau mouvement technique. Hein.
C'est vrai.
Avec la faute en plus.
Vous avez bien raison, mon cher Jacques. Parce qu'Akumenzo, c'est 2 mètres tout rond. Et puis Yone Pedro, c'est 2m08.
Ah, j'ai bien un petit 2m10, ouais, ça se voit. Et 2 mètres, c'est pas grand à l'intérieur. Hein.
Non. Allez, on essaye de sortir de façon propre de cette zone presse angolaise. Le ballon qui ressort, Changé à 3 points. Ça ne rentre pas. Dundao. Gonçalves. Bien lu. Lialé et Almeida pour le petit dunk. Belle séquence défensive là. Des FAP.
Allez, oui. Super relancé, clair et net. Belle action de Lialé. Agressif, hein, Lialé en début de match.
Ah, c'est un beau duel.
Ah, oui, contre Dao, voilà.
C'est un beau duel.
Attention, il y a fait nucléaire là-bas.
Carlos Moraes qui s'est servi du bras du jeune Chomche pour ajuster ce tir à 3 points. Et ils vont prendre un petit peu de distance. 16-8 pour le Petro.
Bien joué, le mouvement en puissance, ça épuise encore une fois ses épaules. Assez mal payé, hein.
Et Akumenzo, qui ne connaît pas la réussite, Gonçalves. Moraes. Allez, rebond, Yone Pedro. On va remettre en place le système.
Oh, le jeune académicien, il reste,
il ne bouge pas.
Il est vaillant en défense.
Ah voilà, trois zones. Voilà. Bonne défense de Jomke.
Très bonne défense. Parce que je peux vous dire qu'être devant Dundao, c'est pas facile. Hein.
Et c'est comme ça qu'on gagne ses minutes. Et ces deux équipes ont la particularité d'avoir été coachées par un certain Lazare Adingolo qui est aujourd'hui le coach du Primeiro d'Agosto, mais qui a été coach du FAP l'année dernière à la BAL et qui a été coach aussi du Petro Atlético.
Il manque de réussite à l'intérieur, ils ont des mouvements, ouais, quand même doigts intéressants, malheureusement manque de réussite.
Et surtout Brice Ayaga, hein, qui est capable de faire de très bonnes choses quand il est à son niveau. De temps en temps emprunté.
Alors que Morman a fait son apparition, lui qui avait été touché à la cheville lors du premier match, il est toujours strappé. Ça a l'air de tenir, en tout cas dans cette compétition pour lui.
Allez, Almeida sera trop long, Domingos qui est rentré aussi. Ouh, en deuxième rideau et Aga, mais attention qu'il ne fasse pas mal à son propre partenaire. Almeida était dans les parages.
et un gars à qui on peut compter pour faire cette débauche d'énergie des deux côtés. Il manque un petit peu de toucher, moi, je trouve, au niveau offensif. Oh là là, c'est quand même magnifique, hein. Surtout, il faut pas avoir peur de la chute.
Il est monté très, très haut, très haut, Brice Yaga.
Il a une polyvalence défensive intéressante sur des pick and roll, des switch. Il est un petit peu petit, mais par son énergie, il est capable de contenir des joueurs plus grands que lui.
Dominguez, qui va convertir son premier lancer franc. Lui qui avait eu 3 balles dans le corner hier pour écraser la défense du Zamalek et qui les a manquées. Dans quel état psychologique sera-t-il ce soir ? À voir.
Ouais. Ceci dit, ils sont plus d'un à en avoir manqué des shoots ouverts hier, à 3 points notamment.
Allez, 2 sur 2 pour Dominguez. Allez, Changé qui va monter le ballon. Avec Tarmétong en deuxième arrière.
Aïe, attention, perte de balle. Ah, ils ont leur problème habituel un petit peu, hein, le FAP. Ils ont des difficultés à trouver du scoring offensivement. Ils n'ont pas énormément de créateurs.
Ouais.
Par contre, moi j'aime bien leur défense et leur physicalité parce que là ils sont quand même capables de garder P3 à 18 points. C'est pas du tout mauvais, mais limiter les pertes de balles, les petits touchés à l'intérieur, ça pourrait énormément les aider.
Lionel Paolo. La baseball pass
à la bonne personne. Heureusement que c'était Yaga qui était à l'autre côté.
Moman. Défendu par Domingos. Attention, ne pas perdre ce ballon. Chomche à la rescousse. Changé. Attention à la fin de possession. Changé qui drive.
Toujours en échec.
Si près, mais en même temps si loin.
Ouais, voilà, vous l'avez dit.
Allez, Moraes.
Bonne défense.
Bien, droit dans ses bottes, là, Chomche. Il y a un 3 contre 1 à jouer. Et Chomche.
Oh, il nous a fait plaisir sur ce coup-là.
Quelle impulsion, là, de Chomche. Je vous ai dit, c'est comme ça qu'on gagne 6 minutes. Et le jeune académicien est en train de gagner les siennes. Et c'est la fin de ce premier quart-temps sur ce highlight.
Fin du premier quart-temps. On a pour l'instant Petro Luanda qui continue à garder l'avance et mène sur la marque de 18 à 10. Mais on voit beaucoup, on se rend compte que cette équipe de Petro ne joue pas sur un plan physique. De la même manière, on sent qu'ils sont fatigués, ils ratent quand même pas mal de shoots, même s'ils sont à 46%, 7 sur 15, 7 sur 17 actuellement. Le taux de réussite n'est pas très très bon. De l'autre côté, on voit cette équipe de FAP qui, je trouve, un peu trop timide et qui devrait justement tenir compte du fait que le Petro a joué un match hier, assurer ses rebonds défensifs et lancer des contre-attaques. Qui leur permettrait, à mon avis, de recoller très rapidement parce que le repli défensif angolais n'est pas très très bon pour l'instant. À l'intérieur, les FAP arrivent à les contrôler. Leur seul problème, c'est qu'ils sécurisent le rebond, donc des écrans en retard. Et s'ils arrivent à faire ça, ils pourraient lancer des contre-attaques. Et je suis aussi étonné qu'ils sont en train de jouer constamment là, homme à homme. Et que peut-être une zone match-up leur aurait permis justement de faire et tirer leur épingle du jeu. Au niveau du temps de jeu, on peut voir que l'équipe de Petro a énormément joué sans 5 entrées. Parce que quand on voit, on a Gakou qui a joué 8 minutes 15 secondes dans le carton, Gonzalez qui a joué 8 minutes 37, Moraes qui a joué tout le carton, Dundao qui a joué 9 minutes 37 et seul Morira a joué 5 minutes 42 et donc ça ne leur permet pas d'une certaine manière d'être frais avec le match qu'ils ont joué hier, mais du côté de FAP c'est presque la même chose puisqu'on voit 3 joueurs au-delà de 8 minutes dans la personne de Kemwe, d'Almeida et de Ebaku Akumenzo. Donc c'est en fait la gestion de jeu pourrait permettre, si j'étais l'entraîneur du Cameroun, je ferais plus de changements et je jouerais beaucoup de contre-attaques donnant un peu de fraîcheur aux joueurs principaux, ce qui leur permettrait probablement de revenir à la marque. On repart pour le deuxième carton.
Des solutions et c'est tout en son honneur parce que c'est comme ça justement qu'on va être capable de grappiller contre cette grosse équipe de Petro.
Oui, c'est vrai, 2m11 et il est capable de courir, capable d'aller poser un dunk aussi violent.
Alors si je peux me permettre, on a beaucoup parlé à Chongqing pendant le tournoi. On a eu également Pierre Estomé hein, qui est out pour le reste de la compétition, qui a été extrêmement vocal avec son jeune partenaire, tout simplement lui disant tu dois aussi protéger le cercle, c'est aussi ça ton rôle. Il y a eu beaucoup de mots d'encouragement. En tout cas, François Niguet n'était pas très content de la défense. Et il a dit on doit toujours verrouiller sur Moraïs et sur Cipriano.
Alors le petit surnom des Estomé que je viens d'apprendre, c'est le chargé de mission. Voilà, les petits paniers, on l'a dit, les petits paniers, là, s'ils sont capables de les mettre. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de nous dire, Étienne, c'est que quand vous êtes jeune c'est, et vous avez cette taille, c'est vous protéger le rebond, vous êtes combatif en défense. Regardez là, on a...
Ça joue,
là, c'est my house. Brice Yaga, et c'est lui qui termine.
Oh là, Kavia.
On le sait, il est capable de tellement de choses, Brice Yaga. C'est lui qui va contrer ce ballon et qui finit la contre-attaque. Ça veut dire qu'il a sprinté plus que tout le monde.
J'aime beaucoup. Hein. Un peu dans un esprit à la Gakou, l'esprit de travailleur.
En tout cas, je peux vous dire que la double action, la Dayaga, a fait beaucoup de bien et de plaisir là aux supporters camerounais qui sont juste derrière moi. Ils sont une poignée, mais ils font déjà beaucoup de bruit.
Alors, regardez-moi ça. Tranquille. Après le petit contre, c'est lui qui sprint pour aller finir. Avec le plexiglas et la bonne passe hein, d'Étienne Tabéton.
Attention à l'équipe de Petro, hein, justement, de ne pas se laisser aller. On sait qu'ils sont fatigués, qu'ils ont les jambes un peu longues. S'ils gagnent cette équipe du PAP, justement, qui a une certaine physicalité trop longtemps, ça risquerait d'être un problème. Regardez-moi, c'est beaucoup.
Oh, il est propre. Hein. Et regardez, c'est lui qui sprint. Non mais c'est vrai que Jacques, ça pourrait être une clé hein, si les Camerounais jouent un peu plus dur, un peu plus physique.
Bah, bien sûr. Et c'est leur grande force, hein, cette équipe camerounaise.
On rappelle que les deux équipes s'étaient affrontées l'an dernier hein, dans un match qui avait été très serré. On peut croire qu'il peut y avoir une différence entre les deux équipes. Il y avait eu 66-64 et ça avait été un match extrêmement physique, messieurs.
Pour les Camerounais... Vous savez que chaque match va être difficile parce qu'ils ne vont pas sur le terrain pour rien. Ils sont préparés, il y a de la stratégie, mais physiquement, le basketball camerounais, il est connu pour ça, justement. C'est que ça va jouer dur.
Et d'ailleurs, sur ce match-là, hein, le FAP a perdu le carton qu'il ne fallait pas, le deuxième carton 22-11. Ils ont remporté les trois autres cartons, mais à la fin, 66-64 pour le Petro. Il y a peut-être une petite revanche dans l'air, qui sait. Et en entendant interception de Moraes, qui finit près du cercle.
Ils ne peuvent pas se permettre.
On est d'accord.
Oh là là, dans les mains de l'adversaire.
Et attention, ça va partir à aller. Hop oh. Ça fait toujours deux points. Il n'y a pas de dunk au bout, mais ça fait deux points. Il y a eu un rapproché des forces armées police du Cameroun. Et puis deux ballons perdus. Mais voilà, il se retrouve à 8 longueurs. À tout de suite.
Après être revenu à 4 points, cette équipe de FAP vient de commettre deux erreurs, deux pertes de balles qui a permis au Petro Luanda de prendre un peu le large. 22-14 à 8 minutes 19 secondes la fin de la mi-temps. Temps mort de cette équipe de FAP du Cameroun. C'est dommage parce qu'ils avaient d'une certaine manière repris le contrôle du match. On pouvait qu'ils contrôlaient à la fois sur le plan défensif et offensif le rythme du match. Et en faisant quelques changements, il y a eu deux erreurs commises. Une balle volée par Moraïs des mains du meneur de jeu, puis une passe en course qui est justement une des choses qu'on dit aux joueurs de basketball de ne jamais faire, ne jamais sauter et faire la passe parce que si l'adversaire ferme tout les options que vous avez, ben c'est une balle perdue. C'est ce qui est arrivé. L'équipe du Petro n'a qu'une seule faute. Celle de FAP en a deux durant cette mi-temps. Et donc, tout va dépendre du niveau de concentration. S'ils veulent, FAP veut recoller à cette équipe du Petro de Luanda. Donc, je crois que c'est la fin de ce temps mort. Les arbitres demandent aux équipes de revenir sur le terrain. 22-14 pour cette équipe du Petro de Luanda contre les forces armées police du Cameroun. Je pense que ce sera un match qui va être joué de bout en bout, parce qu'on peut voir une détermination côté camerounais, on voit un peu de fatigue côté angolais, même s'ils ont des moments de flash. On verra bien ce que ça donnera à la fin. 22-14, nous repartons dans le direct dans ce deuxième carton.
Et pour donner 8 longueurs d'avance à cette équipe du Petro, Bayers qui essaie de se débarrasser d'Anderson Correa, international capverdien.
Attention à la zone là.
Il y allait, il n'est pas le plus grand qui récupère un rebond offensif.
C'est un peu optimiste cela.
Ouais. De la précipitation sur cette tentative de contre-attaque angolaise.
Et je pense qu'ils n'étaient pas prêts pour la zone défense, donc ils ont attaqué un petit peu en homme à homme.
Allez, remise en jeu, Cédric Changé, Akumenzo, y aller. Là aussi, ça va être intéressant, y aller, Domingos. Allez, Tametong, à 3 points. Trop long, Tametong qui prend son propre rebond. Mais qui est scotché par Yone Pedro. Et la relance, Domingos. Allez, on va remettre le système en place. Inside out sur le démarquage. Moraes, Domingos.
À double écran à l'opposé.
Voilà.
On fait travailler.
C'est ça, c'est fatigant pour un défenseur.
Exactement.
Moraes.
Oh là là.
Que du toucher. Le petit bisou au plexiglas.
Ah oui,
que
non.
Du toucher.
Ça, c'est l'angle impossible. Hein. En plus, légèrement en déséquilibre.
Et ça fait plus 10 pour le Petro de Luanda. Domingos qui n'est pas d'accord, pas loin d'intercepter ce ballon, mais qui sera pénalisé.
Pardon, sur
deux Domingos.
La
verticalité de Yone Pedro et le bon timing hein, sur ce contre.
Et autant Pedro, il n'a pas le même impact que Moreira en un contre un dans raquette, mais j'aime beaucoup ses rotations défensives. C'est un bouffeur de rebond, il a sur 22-23 minutes, il va bouffer quasi 10 rebonds par match. Regardez là, il est en boxing out. Je pensais qu'elle avait trouvé la tranche.
Effectivement, elle avait trouvé
la tranche.
Correa, la passe sera
un peu. Je me frottais les yeux, j'ai l'impression que. Voilà, vous bon. Confirmez alors.
Le tir d'Etienne Tametong avait bien pris la tranche. Et remise en jeu latérale. Carlos Moraes. Et Chomche, je vous ai dit, hein, on gagne des minutes. Retour d'Ulrich Chomche. Il y a péril dans la demeure, plus 10.
Mais moi je félicite le coach camerounais, Nigue. Hein.
Il a raison.
Dans le coaching africain, il n'y a pas beaucoup de coachs qui prennent, je vais pas dire un risque, mais qui mettent leurs jeunes joueurs dans des moments aussi importants.
Oui.
Et c'est comme ça qu'il y a un véritable développement du basketball.
Oui, d'accord.
Quand on voit ce qu'a fait Malou Achir avec Cobra Sport, on se dit que Chomche peut également avoir de bonnes minutes.
Oui, c'est encore.
Et ça commence avec des coachs comme ça qui justement sont capables de voir le jeu et comprendre le potentiel de leurs joueurs, même s'ils sont un peu jeunes.
Ça défend. Attention, les passes les fait punir par Domingos.
Ah, voilà. Et Chomche.
Deuxième rebond.
Oh, là.
Il est impressionnant, Chomche.
Est-ce qu'il peut bouffer des rebonds?
Attention
il
à cet écran.
Ah,
oui,
voilà.
Oui. Attention à cet écran. On a bien vu le coup d'épaule là.
Trois appuyés sur cet écran.
Voilà. Ce sont des petites choses sur lesquelles il va progresser, il doit progresser. Mais pour l'instant, il est en apprentissage à grandeur nature, Jacques.
Oui, tout à fait. Pas facile, on croit comme ça, mais pas facile pour un joueur de 2010 d'aller poser un écran sur un joueur aussi petit qui bouge aussi rapidement en fait.
Et surtout si jeune aussi.
Voilà, exactement.
Besoin d'avoir un peu de vis.
Ouais.
Et le vis, là, c'est l'expérience qui le donne.
qui vous l'offre.
On est d'accord. Allez, Domingos. Il y allait, les deux numéros 1. Correa. Nelson Correa, Domingos, ça sera encore court. Que prenne possession, rebond offensif d'Aboubakar Gakou. Et on va repartir pour 14 secondes de possession.
Ouais, Domingos qui depuis hier a des difficultés, je pense qu'il était à 0 sur 4 hier à 3 points. Là il est à 0 sur 2.
Ouais.
Il n'est pas en confiance derrière la ligne.
Ouais, il n'est pas en phase. Il n'est pas en phase avec son tir, effectivement, Domingos. Et pendant ce temps, c'est encore Yone Pedro qui est allé charbonner au rebond offensif pour obtenir. Pour obtenir cette faute, mais qui n'est pas de Chomche, a priori, elle est de Changé.
Yone Pedro, la ligne de réparation, Kissel, sous les yeux de Big Alex Vander. Nouvelle rotation dans cette équipe des forces armées et police du Cameroun. Retour d'Almeida et puis Njonga qui va faire son entrée en jeu.
Ouais, ça a eu beaucoup de moments de temps de jeu, hein, Njonga.
Oui, c'est l'occasion d'en avoir. Almeida, voilà. Almeida qui se signale tout de suite par ce tir à 3 points. Ils en ont besoin, ils en ont besoin. Les forces armées police du Cameroun. La réponse de Gakou, non, en échec. Rebond long, Chomke, Almeida. Chomke, il est passé, il est passé. Ah, incompréhension là, Empire.
Et je suis pas sûr Chomke qu'il a pris la bonne décision. J'ai l'impression qu'il avait peut-être l'opportunité de terminer sur cette action.
Ouais, on a vu la même chose. Il s'était ouvert le chemin du panier.
Ouais, ouais, voilà. Mais bon, il a été agressif et c'est ce qui compte.
Domingos. Salvez. Qu'est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il est? Il est pris dans des sentiments.
Bien joué, Pedro.
Travaille bien en dessous, Yone Pedro.
Ils ont bien vu le mismatch. Ils ont pris leur temps. Il y a des petits hommes. Et puis là, il fait simple. Il y a un petit drop step. Et voilà, sans faire la faute, le drop step, il n'a pas senti le coup. Et encore une fois, il va se retrouver sur cette ligne de lancer franc. C'est une bonne manière de fatiguer l'adversaire, hein. Provoquer des fautes, vous retrouver au lancer franc, bien shooter vos lancers francs. Encore une fois, je le dis toujours, c'est l'un des shots les plus faciles qu'on peut avoir dans le jeu, donc mieux vaut en profiter.
D'accord. Yannick Njonga. Il est lancé, manqué par Pedro. Sur deux pour Yone Pedro. On essaye de faire circuler ce ballon. Almeida, Domingos, nouveau duel. Le ballon qui va ressortir. Changé.
Voilà.
Cette fois-ci, vous avez écouté, Jacques. Il vous a écouté cette fois-ci, mon cher Jacques.
Oui, c'est deux fois qu'il est sauvé vers l'anneau, qui se crée. Il est puissant, hein, avec sa taille. Et là, il a pris la bonne décision.
Domingos, nouveau tir à 3 points, un peu précipité. Et là, aïe, aïe, aïe.
Il est couru au milieu du terrain, c'est ça l'erreur. Hein.
Oui, oui.
Il
n'y a
pas d'angle de passe.
On est d'accord.
D'ailleurs, j'aurais dû reconnaître.
Et pourquoi pas, et pourquoi pas, oula. Petit air ball. Salvez, Gakou, Domingo sans relais, Gakou, qui ne fonctionne pas, rebond Almeida.
Et Domingo qui commence justement à souffrir de son manque de réussite à 3 points, là on l'a vu, il a bien pris sa décision, on l'extrapasse, mais rapidement, si les Anglais ne meurent pas de shot à 3 points, ils vont se trouver dans la même situation qu'hier.
C'est vrai, on est d'accord. Almeida qui s'est rapproché une fois à 3 points, la fois d'après en percussion et qui va inscrire ce panier pour amener petit à petit les forces armées et police du Cameroun.
Ouais, il joue bien hein, ce ball screen, cet écran sur ballon, il est patient, il reste sur sa main gauche, il prend le temps de lire les mouvements et les rotations défensives. Il est propre, hein, Almeida, il joue vraiment transparent, simple. Il prend à chaque fois ce qui est devant lui, en fait.
36 ans, mais qui connaît son corps parfaitement, qui arrive avant tous les autres pour s'étirer, pour s'assouplir. Gros voyageur aussi.
Ah, c'est le gros leader de cette équipe camerounaise.
Et Moreira qui est revenu au jeu. Domingos. Salvez.
Salvez, bien Domingos. Joué. Voilà, attention, attention.
Alors on a l'impression que la défense des FAP fait une impasse sur Domingos. Voyant sa maladresse à l'extérieur.
Ah, il s'est bien joué. Ils ont raison, ils ont raison.
Ah, ça c'est bien fait. Ça c'est... Oh, c'est dommage, Yuriz Chomche. Parce qu'Almeida avait bien attiré Moreira à l'extérieur pour donner ce ballon en dessous pour Chomche, mais bon. Heureusement. Ouh, il est très court. Il est très court, Moreira. Et ça va être une faute en plus sportive. Et Yannick Moreira.
Ah, il se fait partir en 3-4 à la sauce action.
Messieurs, il reste encore énormément beaucoup de temps, mais ils sont en train de faire un petit match de traîneur, cette équipe des forces armées et police. On sait que le P3 a joué hier, ils sont en back-to-back. Peut-être que, à l'usure, faut se méfier pour le P3. Attention.
Ce qui m'ennuie pour l'instant pour le FAB, c'est qu'ils ne sont pas encore arrivés au lancer franc. Si je ne me trompe pas, là, ça va être leur premier lancer franc. À chaque fois qu'ils ont joué au poste, ils n'ont pas eu des lancers francs. Et ça, en fait, c'est des choses qui me font peur pour une fin de match. Parce que l'adversaire ne prend pas de faute. Vous ne prenez pas confiance en prenant vos lancers francs, c'est quelque chose qu'ils ont, difficile.
Effectivement. Almeida. Très propre. Et surtout, position à venir pour le FAB.
Et on fait tourner du côté du FAP encore un changement à l'intérieur. On va mettre toutes les forces vives en action pour courir, pour aller donner des coups, pour prendre des rebonds.
Pourquoi qui est entré en jeu.
Ouais, pour fatiguer un adversaire qui est fatigué.
Allez, Bayers contre Ebar.
Il manque d'agressivité parfois.
Cédric Moreira, Kilde Dundao. Attention, Kilde Bayers, ça ne pas sortir trop loin. Allez, le petit capitaine, le petit général qui replace le système en jeu. Salvez.
Bien joué, bien joué. Oh là 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 là.
Beaucoup de touché. Hein.
Quel touché.
Beaucoup de touché.
Ce grand paresseux là.
Oh, vous êtes dur. Vous êtes dur, mon
père. On est quand même d'accord. Par contre, il fait quand même preuve de paresse, mais quel beau touché qu'il a.
Ouais, il lui a manqué un mois. Un mois pour devenir un joueur des Brooklyn Nets en 2015. Malheureusement, il s'était blessé alors qu'il était au camp d'entraînement. Il s'est blessé et les Nets n'ont pas voulu attendre. Voilà, il s'est fait couper. Liano Lompio qui lui signale son entrée par ce tir longue distance. Bang, 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 Olympio Cipriano.
C'est bien, Cipriano qui monte, qui peut mettre son petit shot. Hier, encore une fois, on parle du match d'hier. Ça a été catastrophique derrière les 3 points. Il n'en a pas mis un, il était à 0 sur 6. Là, il monte sur le terrain, il met son premier shot. Tant qu'ils mettent des shots, ils vont éviter que cette équipe du FAB retombe dans cette zone. Parce que je peux vous dire que quand vous avez une zone qui tombe dans les dents et que vous êtes obligé de mettre vos shots, c'est une autre histoire.
C'est vrai.
Et encore cette capacité à Petro à repousser à chaque fois les FAB dès qu'ils se rapprochent. Ça doit être tellement fatigant déjà pour les corps, mais dans la tête surtout.
Vous avez bien raison, mon cher Étienne. Allez, pendant ce temps, Morman est revenu en jeu. Alors. Allez, ça parlote un peu.
Il y a des vérités qui se disent.
Oui, oui, on a entendu des choses et puis... Bon, on ne va pas les traduire. C'est un Bayer, il est sorti, Chomche est revenu. Alors, on va travailler pour Olympio.
Ouh, en mouvement.
Petit déséquilibre latéral.
Ce qui m'inquiète un petit peu personnellement pour les Fabs, c'est que si on sort d'Almeida, aucun joueur a plus de 2 points. Et on approche de la mi-temps.
Et c'est le problème de création du côté du Fab, c'est... C'est une équipe qui n'a pas, pas assez de créateurs, de joueurs qui sont capables de jouer en un contre un, voire même de créer la passe pour un coéquipier, je trouve.
Ils s'en sortent très très bien. Une attaque complètement brouillonne, ils s'en sortent bien avec ce tir, avec la planche. Je ne crois pas que Morman l'ait fait exprès d'ailleurs. Mais bon, ça fait 2 points.
Mais attention là en défense, on se laisse aller, bien travailler de Cipriano, de Tsangé, pardon. Il s'est fait enrhumer un petit peu rapidement là sur cette action.
Et Pierre Tompois qui était très loin pour espérer apporter une aide. Allez, la double feinte. On va ressortir. Mormann. Tanguay qui demande le ballon. Il ne le recevra pas. Nouvel écran de Tchongke. Mormann à 3 points. Rebond. Assuré par Gakou. Gonsalves. Gonsalves qui ressort. Oui, l'extra passe. Oudundao. Qui ne sanctionne pas, mais regardez comment il va se battre encore à Aboubakar Gakou. Je comprends pourquoi vous l'aimez bien, Jacques.
Ah, je l'adore, j'adore. Moi, je l'achète très bien. Si on peut l'acheter, des Gakou, moi, j'en prendrais 5 sur le terrain, quasi.
Bon, on va se créer une petite franchise, pourquoi pas.
Alors là, je suis pas certain. Oui, je pense qu'on va revoir quand même cette action. Moi, ça me paraissait d'être vraiment juste avec la fin du temps réglementaire. Je ne sais pas si les arbitres ont la même impression, s'ils vont aussi aller revoir.
Il va y avoir un replay, un review. François Nyengue qui se plaint. On l'a dit, hein, ce match fait partie des trois finales que doit jouer le FAP du Cameroun. Il y a ce soir contre le Petro. Il y a lundi contre Cobra Sport. Et puis mardi, contre l'équipe haute, le Zamalek.
Pourquoi pas? En tout cas, ils auraient tort de ne pas y croire.
Oui, je suis d'accord.
Ils auraient tort, vraiment.
Je suis d'accord. Allez, commençons. On va bien regarder cette action pour savoir si elle a eu lieu pendant le temps officiel de jeu ou à la fin de la possession. Ah! On a un petit doigt dans l'œil là de Childe Dundao.
Il ne le touche pas. Attention que ce geste peut être fautif. Juste le geste peut être fautif parce que c'est assez dangereux.
Oui.
Donc juste sur le geste, il pourrait évidemment appeler la faute.
Alors, M. Paul Tourné.
On les annonce que la faute, vraisemblablement, est arrivée après.
Et donc, il y avait les bien fautes, mais on n'ira pas beaucoup plus loin.
34-25 pour cette équipe de Pedro Sedina. On a vu un match mi-figue, mi-raisin. On a pu voir une équipe de Petro Luanda qui est un peu émoussée de son match d'hier. On a vu malheureusement les FAP qui n'ont pas pu tirer un avantage de ça, qu'ils auraient pu jouer une défense beaucoup plus groupée et lancer des contre-attaques pour leur permettre de coller et rester collé à cette équipe de Petro qui paraît un peu fatiguée durant ce match qui les oppose à cette équipe du Cameroun.
Moi je pense que, comme je le disais l'autre jour, j'ai resté un peu sur ma faim par rapport aux prestations des forces armées et police. Je m'attendais un peu à ce qu'ils élèvent leur niveau face à des équipes un peu plus consistantes que, avec tout le respect que je dois à leurs adversaires, mais face à des équipes un peu plus consistantes que ce qu'ils avaient pour le moment affronté. Mais on voit que cette équipe des FAP manque un peu de rythme, parce que comme tu l'as souligné, le Petro de Luanda est quand même sorti d'un match assez énergivore hier face aux Zamalek, et pourtant ils parviennent à garder le rythme. C'est pour ça que je me dis que cette équipe des FAP manque un peu de rythme et de fraîcheur physique aussi.
Oui, ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, quand on voit la feuille de marque, on a Kalmeda qui a 11 points et Morma qui est à 4 points, mais tous les autres joueurs sont à 2 points, ce qui pose un grand problème. 29% de réussite, 11 sur 37. Ils ont eu la possibilité d'avoir des putbacks, des deuxièmes chances, malheureusement, ils n'en ont pas tiré profit. De l'autre côté, ils ont la chance que cette équipe de Petro, aujourd'hui aussi maladroite, 13 sur 37 à 35%, ce qui leur a permis, ce qui leur permet pour le moment de rester à 9 petits points. Mais il va falloir que, comme tu le dis, il va falloir qu'ils prennent un peu plus de risques dans cette deuxième mi-temps, parce qu'Almeida, lui tout seul, ne peut pas gagner ce match. Il faudrait que les Kemwe, les Ken Fak, tous ces autres joueurs qui ont quand même une certaine expérience puissent se battre pour donner un meilleur résultat à cette équipe de FAP qui pourtant à mon avis, auraient pu tirer leur épingle du jeu en faisant une défense beaucoup plus regroupée, donc un genre match-up zone, et justement côté fort, côté faible, et puis juste sécuriser le rebond et lancer des contre-attaques. Je crois que ça aurait été pour eux une manière de pouvoir non seulement être proche et peut-être même de prendre les devants, parce que le fait qu'ils ne pénètrent pas, si on a pu voir qu'ils n'ont même pas eu la collective sur une mi-temps complète, cette équipe angolaise n'a fait que 4 fautes, ce qui n'est pas possible. Leur jeu devrait être basé sur la pénétration, puisque les autres sont beaucoup plus grands, des accélérations qui leur permettraient de prendre une meilleure option pour ce match-là qui est très important pour eux.
Il manque un peu d'agressivité, en fait.
Oui, totalement. Et, en fait, le problème, souvent, dans les équipes africaines, de plus en plus, c'est que on a perdu notre identité. On s'amuse à répliquer des systèmes de jeu joués par des équipes européennes. Et on oublie que nous pouvons courir. Ce qui fait la force de l'équipe américaine, justement, c'est ce côté athlétique, ce côté physique et de course qu'ils ont, qui leur permet de donner la trajet haute à toutes ces équipes européennes qui techniquement sont souvent techniquement plus fortes, mais ne peuvent pas supporter la pression, que ce soit défensif, les contre-attaques, et ça leur donne un avantage. Mais quand on voit la plupart des équipes africaines de plus en plus, ce qu'ils font, c'est qu'ils copient le playbook de système de jeu européen.
Mais justement, Eugène, est-ce que tu penses que ces équipes africaines-là peuvent mettre, les techniciens en tout cas, des systèmes qui sont très adaptés au style africain?
Non, mais c'est très simple. Hein. En fait, le basketball n'est pas un sport compliqué. Quand on va partir un peu sur le sport, le système européen, ils jouent, le système de jeu qu'ils ont mis en place correspond à leur qualité athlétique. Étant donné qu'ils ne sont pas des gros coureurs. C'est vrai qu'il y a quelques équipes qui essaient de courir de temps en temps, comme l'Espagne ou la Serbie, mais les équipes européennes jouent du half-court offense, donc mi-terrain attaque. Et pour ça, ils ont créé ce qu'ils appellent le spacing. On appelle ça les espaces. Ils ont créé des espaces qui ont d'ailleurs été importés aux États-Unis, mais importés aux États-Unis parce que la NBA joue sur une surface qui est beaucoup plus grande de terrain. La ligne de 3 points est très écartée et ils ont développé les tirs à 3 points avec Stephen Curry, les Klay Thompson et d'autres joueurs, les Kyrie Irving et ainsi de suite. Mais quand on voit cette équipe américaine jouer en international contre des clubs ou des équipes nationales d'autres pays, ils jouent leur basket. Et le basket africain devrait mettre des systèmes de jeu où le basketball est en mouvement, ce qu'ils appellent en anglais motion basketball. Et ce serait la meilleure façon de pouvoir jouer, parce que quand la défense, l'attaque est en mouvement, la défense a du mal à faire des rotations, la défense a du mal à suivre chaque joueur, à aider en même temps, ce qui permet à l'équipe, quand elle prend le rebond, dégagement sur la droite ou sur la gauche, courir dans les couloirs extérieurs, les grands arrivent dans les couloirs intérieurs, aller au panier, causer des fautes le plus possible. En causant les fautes, obligatoirement votre adversaire est obligé d'une certaine manière à faire attention parce que personne ne veut sortir. Et donc je crois que au niveau du basketball africain, je ne sais pas s'il existe une organisation des coachs africains. Il va falloir, en tout cas moi, quand je fais des déplacements, j'étais allé au Burundi, je suis allé au Zimbabwe, j'avais encouragé les directions techniques de ces pays de jouer en fonction de leur qualité physique. Ne copiez pas mot pour mot les playbooks des systèmes européens qui ne correspondent certainement pas avec votre façon de jouer. Et ça peut se voir, je prends un exemple, qui c'est pas le basket, c'est le football. Le football brésilien était tombé en panne justement parce que la plupart des joueurs évoluent en championnat européen. Ils avaient décidé de prendre des coachs qui coachaient cette manière de jouer et ça avait tué le côté créatif du basket, du football brésilien.
Absolument.
Et on peut le voir au basketball. Les Africains ne sont plus créatifs. Le basketball, c'est d'abord le 1 contre 1. Vous battez votre adversaire, vous créez le surplus en attaque, il y a une rotation défensive, une passe, deux passes, trois passes et c'est le panier. Alors, c'est surprenant pour des gens qui devraient normalement travailler. Et ça doit aller jusqu'à la base, à l'éducation du basketball au plus bas niveau. Les enfants doivent apprendre à bien dribbler. Les enfants doivent apprendre à courir et utiliser leur qualité athlétique et la différence se fera.
C'est-à-dire, tu prends une harmonisation des pratiques de basketball adaptées au style athlétique africain, mais surtout aussi à l'intelligence de jeu, parce que les joueurs africains également sont des joueurs très créatifs.
Tout à fait. De toute façon, et puis sans vouloir faire... il existe deux Afriques. Il y a l'Afrique du Nord,
ouais.
Où les gens sont peut-être moins athlétiques dans l'ensemble. Ce n'est pas un préjugé. Et qui, donc, eux, sont beaucoup plus techniques sur le plan des playbooks et qui ont des systèmes qui correspondent beaucoup aux jeux européens. Et il y a l'autre Afrique où les gars sont beaucoup plus athlétiques, où les gars sautent haut, où les gars sont physiquement beaucoup plus forts, où les gars sont beaucoup plus rapides et qui, justement, devraient utiliser un système de jeu qui correspond à leur physique. Et l'intelligence de jeu, le QI de basket, ça vient avec... l'âge auquel on commence à jouer. Et c'est pour ça.
Ouais.
D'où l'importance de mettre le basketball, si les fédérations veulent développer le basketball, et c'est ce qu'on est en train de faire en Centrafrique, on essaie de remettre, parce que c'est ce qui avait fait de la République centrafricaine le meilleur basketball africain pendant les années 70, de 70 à début 80, nous allons remettre le basketball à l'école primaire. C'est comme ça. Les enfants vont s'habituer au ballon beaucoup plus rapidement. Le ballon va faire partie de leurs mains naturellement, parce que quand vous avez une bonne maîtrise du ballon, vous avez un meilleur shoot. Il suffit de pratiquer le shoot. Vous avez un meilleur contrôle du ballon. Et ça fait une très très grande différence dans le basket. Et le basket centrafricain fut meilleur parce que à toutes les positions, tous les joueurs étaient des bons dribbleurs. Et d'ailleurs, il y avait cette philosophie qu'on appelait le « begin show ». C'était une expression en Centrafrique, c'était juste pour dire que le dribble, le spectacle, ça faisait partie de notre basket. Et d'ailleurs, ça nous a valu l'appellation des Américains d'Afrique. Parce que quand on a eu énormément d'entraîneurs américains qui sont venus, comme Christopher Apple, Christopher Pond, je me rappelle plus de celui-là, mais c'est lui qui a Jim McGregor, père son âme, qui avait pris justement une équipe centrafricaine et qui avait fait une tournée européenne en Suède, dans le nord de l'Europe et plusieurs pays. Et cette équipe s'était vraiment très bien comportée. Et Christopher Apple est venu et est reparti dans les fondamentaux et a permis, par exemple, aux centrafricains d'avoir des appuis supérieurs qui nous a permis d'être meilleurs. Et d'ailleurs, moi, en tant que joueur, c'est grâce à Christopher Appel que mon niveau de basket s'est élevé. Et il y avait la structure qui était là. Notre basket, on faisait deux allées, deux retours, donc quatre tours dans notre championnat. On jouait 40 et quelques matchs l'année, en championnat simplement. Et ça nous permettait... Et c'était homme-homme, tout terrain, il n'y avait pas de zone. Chez nous, il n'y avait pas de zone. Ce qui faisait de nous des... On était vraiment des poisons des défenses. Et je crois que, bon, bien sûr, il ne faut pas enlever les autres aspects, parce qu'il faut apprendre à jouer contre la zone, donc il faut connaître la zone, mais il faut savoir utiliser ça à des moments bien précis.
Il faut savoir varier tactiquement dans le jeu.
Exact.
Pour être efficace.
Exact. Et en plus, les défenses, ça dépend de l'adversaire. Par exemple, si vous avez un adversaire qui ne sait pas bien tirer, quelquefois, on fait une zone match-up, donc on contrôle nos hommes, mais on reste dans une zone. Ça permet de sécuriser, de faire un bon rebond. Et quand on a le rebond, on lance des contre-attaques et on les met en difficulté. C'est ce qui est arrivé hier avec cette équipe de Zamalek contre Petro. Petro n'arrivait pas à mettre ses trois points. Zamalek a joué une zone du bout en bout et ça leur a permis de gagner le match facilement. Et donc, c'est ça. Mais la qualité première des équipes d'Afrique du Sud-Sahara, ça doit être un jeu athlétique et rapide. Et c'est pour ça que le Sud-Soudan, tel qu'il est parti, va dominer le basketball africain pour peut qu'il y ait une continuité dans le management actuel. Si Luo Deng reste président de la fédération et qu'il continue à travailler et à former les administrateurs du basketball au Sud-Soudan, je vous promets, je te promets, Sedina, que dans les 4 prochaines années, le Sud-Soudan gagnera l'Afro-Basket, le Sud-Soudan ira à la Coupe du Monde, le Sud-Soudan ira aux Jeux Olympiques. Parce que en matière de ressources humaines, il ne manque vraiment pas de joueurs. Et j'ai toujours été étonné que, par exemple, des équipes comme le Sénégal ou même comme le Mali ne jouaient pas un jeu beaucoup plus rapide. Le jeu était trop stéréotypé, le jeu était trop européanisé. Et ça enlève quelque chose. Ça enlève cette beauté du basketball que nous pourrions amener, l'épice qu'on pourrait amener dans le basket. Quoi.
Oui, je suis totalement d'accord avec toi, Eugène, parce qu'il y a cette explosivité naturelle que les athlètes africains ont et qu'il faut exploiter, alors que les jeux stéréotypés profitent plus, comme tu l'as dit, aux Occidentaux, qui sont moins dotés physiquement. Et je me rappelle, lors de la première saison de la Basketball Africa League, tu soulignais également le management statique, voire un management qui manque de variété de la part de certains coachs. Et cette année également, je pense qu'il y en a qui répètent toujours les mêmes erreurs, à commencer par l'entraîneur du FAP. Et la question que j'aimerais te poser, pour moi et pour les internautes, avant cette deuxième mi-temps, c'est de savoir qu'est-ce que les FAP doivent faire pour un peu mettre du rythme et de l'intensité dans leur jeu, afin d'enflammer le match. Parce qu'on a vu qu'à un moment donné, on avait l'impression qu'ils pouvaient un peu prendre le contrôle du match, mais et comme lors de leur dernier match, ils ont un peu vers la fin de la mi-temps. Lors de l'autre match, c'était vers la fin du match, mais là, vers la fin de la mi-temps, ils ont un peu lâché du lait.
Tout à fait, ils sont revenus à 4 points. Alors, à ce moment-là, on pensait qu'ils allaient faire la différence. Mais ils ne s'appliquent pas dans les petits gestes. Par exemple, ils vont lay-up, ils ratent des lay-up faciles en défense, mais tout leur problème commence en défense parce qu'ils donnent des deuxièmes chances à l'équipe du Petro. S'ils arrivent à jouer une défense beaucoup plus physique comme ils l'avaient fait pendant le deuxième quart-temps et que sur chaque tir, chacun pouvait faire l'écran retardant, donc un box-out à son adversaire, et que chaque fois qu'ils ont la balle, ne pas attendre et lancer la contre-attaque, l'équipe de Petro n'a pas un bon repli défensif. Et ça, c'est la clé de leur match. Ils doivent jouer serré, ils doivent jouer physique, ils doivent assurer le rebond défensif et lancer des contre-attaques. En faisant ça, ils auront des paniers en contre-attaque facile. Ils vont pousser Petro à faire beaucoup de fautes et obligatoirement, ça leur permettra maintenant, d'une certaine manière, d'avoir des lancers francs. Parce que quand on voit, c'est vrai, ils n'ont pas tiré beaucoup de lancers francs. Ils n'ont tiré que 2 lancers francs dans le match, 100%. Almeida, ce n'est pas normal. Alors que s'ils pouvaient lancer des contre-attaques, mettrait cette équipe de Petro dans la difficulté et ça leur permettra de revenir à la marque et pourquoi pas passer devant. Donc on va voir comment ça va se passer. Il y a aussi, c'est vrai qu'il y a des joueurs, bon, ils ont quand même fait jouer, tourner leur équipe, ce qui a permis, ils ont quand même une certaine fraîcheur, contrairement à cette équipe de Petro qui a fait quand même jouer les mêmes qui hier ont déjà beaucoup joué. Donc on verra la suite.
Ouais, et là, on voit que cette équipe du Petro de Luanda, qui est d'habitude très adroite au shoot, shoot à un niveau très bas, mais les FAP n'en ont pas profité. Maintenant, si cette équipe du Petro de Luanda retrouve son adresse en deuxième période, ça risque d'être compliqué.
Ok, mais on se retrouve après, à la fin de ce match, puisque la deuxième mi-temps vient juste de commencer. 34-25 pour le Petro de Luanda.
Et pendant ce temps, c'est Brice et Aga qui sonne la révolte. Yano, Aboubaka, Biakou, Moraes, qui va à l'opposé de l'écran de Moreira, mais pour bien lui redonner ce ballon.
Ah, ils sont patients.
Ils sont patients, mais attention, à la fin de la possession là. Oh ah, là, c'est difficile. C'est difficile psychologiquement pour cette équipe du FAP qui avait tout bien fait, mais c'était sans compter avec ses tirs de Tilde Dundao. Et qui derrière va perdre un ballon et Dundao qui
en défense de Bayer.
Oh, c'est une vraie puce. C'est une vraie puce électrique, il de Dundao.
C'est un véritable athlète, il est explosif, il est rapide, attention, il termine à une bonne hauteur. Alors Bayer, là, après la perte de paille, il a pris un peu trop de temps à s'excuser, il n'a pas pensé à la conversion défensive. Et tout d'un coup, quand vous trouvez d'ailleurs
Ben Dundao, ça devient très très compliqué.
Mais on va utiliser votre terme, il a été paresseux.
Il a été paresseux. Alors, voilà, je suis désolé.
Il a été paresseux, voilà. TJ Byers. Allez, Dundao, le premier est converti, premier lancé franc. On a regardé un peu, vous parliez des lancers francs, ils n'ont shooté que deux lancers francs en 20 minutes, les Camerounais.
Je dis, ça, c'est une cicatrice que vous n'avez pas envie d'avoir en fin de match, de ne pas avoir été assez agressif pour avoir pris vos lancers francs et surtout de ne pas avoir provoqué des fautes sur l'adversaire.
Et Dundao, il est en train progressivement de rentrer dans la tête de Deshaun Norman. Attention. En difficulté, il va essayer de s'en sortir avec le jeune Chomke. Il va falloir shooter un moment ou un autre. Oh là, Marché. Oui, Marché de Brisbane. De toutes les façons, cette action était très très mal embarquée. Ouais, ce n'est pas étonnant qu'elle se termine mal.
Oui, ouais, l'action, le pick and roll avec les deux intérieurs. Je sens que Chomke, il préfère en fait pop, prendre son shot à 3 points que plonger à l'intérieur. Et comme vous l'avez dit, c'était un petit peu brouillon.
Il y a eu une colère de Morman en tout cas sur l'action. Vous auriez dû voir son expression du visage.
Non, mais c'est vrai que ce genre d'action, ça met en colère à la fois les partenaires et le coach.
Ouh, attention à partir mal là.
Un petit coup dans les abdominaux. C'est Aboubakar Gakou, mais c'est un solide, c'est un costaud.
Ce qui fait peur dans ces actions, c'est quand on s'en mêle les bras et quand on descend avec les épaules comme ça, parfois quand on est un petit peu emmêlé.
Ah oui.
Et là, c'est surtout qu'il est tombé avec le bras sous lui, là.
Vous faites bien de le dire, là. Attention.
Enfin, vous qui êtes un spécialiste du catch, vous savez ce que c'est, hein, j'imagine.
Oh, que oui. Mais bon, pour le connaître un peu, Aboubakar Gakou, c'est un warrior.
Encore une fois, ça arrive sur un rebond offensif récupéré par cette équipe du Petro. Toujours ce problème de rebond hein, pour les forces armées et police.
Heureusement là que Brice Ayaga n'est pas sanctionné. Cipriano Olympio qui l'a bien fait sortir de ses appuis. Mais derrière, il n'y a pas la réussite à 3 points. Norman pour le FAP. Changé, attention. Pas loin du marché. Bataille au rebond, Morman qui est très 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 court. Il a joué petit bras là. On remet les choses en place. Changé. Et Yaga. Ça ne rentre pas. Byers.
Sortir le ballon.
Voilà. Morman. Un shoot un peu plus classique, mais qui ne rentre toujours pas.
Ils auront eu des actions, des opportunités de scorer. Hein.
Le FAP, ils en ont. Dundao, Moraes, Dundao. Et bien voilà, des actions qu'on ne voit plus. Hein. Il y a beaucoup de pick and pop, mais des pick and roll, on en voit de moins en moins.
Oui, mais c'est pas tout face de Dundao justement dans ce rôle.
Ouais.
Vous étiez sûrement masqué, mais c'est Byers qui a contré encore une fois.
Et c'est Changé qui conclut. Ils sont bien rentrés, en tout cas, dans leur seconde mi-temps. Pour Vixadio, pour les Camerounais. Taïje Byers, il va finir par dompter ce ballon. Et Morman à la relance. Et voilà, encore vitesse et précipitation. Le ballon sera perdu.
Naïf cette passe longue, pas de line, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas d'angle, c'est facile à refermer pour le défenseur.
Surtout qu'il n'y avait pas urgence en tout cas à balancer ce ballon. Cipriano, défendu par Ayaga. L'écran de Moreira, Cipriano qui va perdre ce ballon. Encore Chomke était dans cette affaire.
Action positive.
Il est en train de nous séduire là, le jeune Ulrich. Ulrich Chomke.
Oui, tout à fait.
Regardez là, hop. Allez, c'est lui qui a le ballon dans le corner. Il va shooter.
Et ben voilà.
Chomke qui fait tomber la foudre sur cette défense du Petro.
On avait pressenti qu'il aimait bien cette petite ligne à 3 points.
Allez. Dundao dans ses œuvres. Shoot complètement acrobatique là, mais il va faire un passage sur la ligne de l'entrepont. C'est une faute de Sean Moorman. Et puis regardez ce tir dans le corner.
Il est osé quand même ce shot parce que bon, c'est une semi-contre-attaque. C'est un big man, il n'avait pas encore mis, si je ne me trompe pas, il va mettre son premier dans ces conditions-là. Il a du cœur.
Regardez en haut de l'écran, hein. On a Almeida et Wang Mene qui lui parlent justement.
Frères, voilà.
Ça c'est très très bien.
C'est les grands frères, ils ont vécu ça, ils sont là pour la nouvelle gloire pardon, camerounaise, ils ont bien raison. C'est ça le cercle.
Eh oui. Allez, on va repartir avec Chongé. 41-32, toujours pour le Petro. Et ballon perdu par Changé. Moraes, il y a un 4 contre 2. Attention à ne pas se faire punir. La fin de tir. Le ballon qui ressort pour Moraes. Et Changé, encore une fois. Rebond autoritaire d'Ulrich Changé. Changé. Et Yaga. Et Yaga dans le corner. Il est court. Dundao. On va attendre les grands gabarits, voilà. Moreira qui s'est passé. Oui.
Il sent qu'il doit organiser son équipe.
Dundao que j'avais découvert dans un Afrobasket U16, que j'ai retrouvé dans un Afrobasket U18, qui a déjà beaucoup de basket. Hein.
Oui, il a beaucoup de basket, beaucoup d'expérience. On est parfois pas étonné de voir un si petit joueur à la même, mais c'est un joueur de caractère.
Un vrai général. Little big chip.
Ouais, voilà.
Et pendant ce temps, c'est Cipriano Lempio qui a mis un nouveau tir à 3 points. Et les Angolais gagnent 11 points, 12 points d'avance. Cipriano Dundao.
Oh,
il a nettoyé encore ce ballon, mais voilà. Cipriano, c'est le silent killer ce soir. Quand ça ne va pas, c'est lui qui assassine pour l'instant les forces armées police du Cameroun.
Allez, le 3 points très important, mais quelle action défensive! Il a pris des rebonds, il a mis des 3 points, il a mis des comptes. Et voilà encore une fois l'état d'esprit de cette équipe qui a de l'expérience. Hein, parce que les Angolais, ils ne craquent pas. Hein, ils sont toujours dans leur rythme, mais ils ne sont pas spécialement affolés.
Allez, on fait une petite pause. 47-32 pour le Petro. À tout à l'heure.
Temps mort demandé par l'équipe de FAP qui prend de l'eau. 47-32 pour cette équipe de Petro de Luanda. Ils avaient pourtant à plusieurs reprises des chances de marquer sur des contre-attaques, ne les ont pas capitalisées. Et donc se retrouvent derrière. On voit un jeune joueur de cette équipe des FAP en la personne de si je ne me trompe pas, non, c'est pas Mboup. En tout cas, il joue un très bon match. Sur cette partie-là, on le voit à la fois au rebond défensif, sur les contres et même des tirs, puisqu'il a fait un tir à 3 points qui leur a permis de revenir proche. Malheureusement, l'équipe a repris et retombé dans ses péchés mignons, et cela a permis à cette équipe de Petro Luanda de prendre une avance beaucoup plus sérieuse. Nous espérons que l'entraîneur de l'équipe de FAP va finalement trouver un moyen pour pouvoir revenir à la marque, parce que il n'y a aucune raison qu'il ne puisse pas le faire. On ne voit pas une grande équipe de Petro aujourd'hui, hein, qui elle de son côté enregistre beaucoup de problèmes. Pour peu que cette équipe de FAP pourrait jouer la défense et s'applique dans la finition de leur panier. Donc on repart dans le direct, 47-32 pour le Petro de Luanda.
On a Tichouchou Tchomche qui est sorti, qui est ouvert à la joue et qui est en train de se tenir abondamment.
Ça c'est pas une bonne nouvelle. Ça ce n'est vraiment pas une bonne nouvelle là, Jacques.
Non, parce qu'il fait des grosses stats, hein, 5 points, c'est trop bon en 16 minutes, ça, on disait, c'est une statistique importante pour un joueur de taille. Et puis le beau compte, il a donné du momentum à cette équipe du FAP. Mais attention quand même, quand on regarde le score, c'est quand même P3+13, c'est impressionnant leur régularité offensive.
Et qui est donc ce joueur qui ne s'est pas coupé les ongles?
Je crois que c'est plutôt sur le dernier contre. C'est sur son dernier contre. Et mais ça a l'air d'aller, hein. C'est juste
une petite coupure. Voilà.
Et tout un temps d'ailleurs, on vérifiait les ongles des joueurs avant le match.
Exactement.
Ça c'est parce que vous jouiez avec des faux ongles aussi.
Bayers là, qui envoie Valdengue et Tilde Dundao. Le problème c'est qu'il se fait sanctionner une faute offensive. Et ça sera la troisième pour Taïdé Bayers.
Alors Bayers il n'a pas été le plus agressif tout le match, mais là il s'est fait plaisir quand même.
Oui mais bon, il aurait pu le faire avec quelqu'un de la même taille. Faut pas s'attaquer aux petits.
Il y en a beaucoup en plus dans l'équipe adverse.
Eh bien oui, faut pas s'attaquer aux petits là. Allez.
Je ne sais pas ce que vous en pensez, monsieur, mais Joël Almeida est toujours vissé sur le banc avec ses fautes. Wang Meni n'est toujours pas rentré. Il y a peut-être urgence, là. L'écart n'a jamais été aussi grand dans cette partie.
Et surtout, il est le seul joueur des FAP en double figure, plus de 10 points. Allez, ton point. Pour le rebond. Et Yaga.
Ah, il ne doit pas le mettre au sol. Il est entouré par 2-3 joueurs. Ça, c'est une règle de base pour un big man au rebond.
Ils se sont bien battus, mais... Voilà, le ballon sera en possession. Défense d'armée police.
Et Yaga, ouais, avec cette erreur, mettre le ballon au sol, big man. Non, vous ne mettez pas le ballon au sol. Ou bien vous ressortez, ressortez la balle, ou bien vous remontez. Regardez là, boum. Il y a trois joueurs autour de lui, il va essayer de dribbler. C'est parti, bien sûr.
Allez, encore un écran limite là, cette fois-ci c'est Changé dans ses œuvres, dans le corner. Tamétong.
C'est la finition.
Problème de finition. Et comme disait Etienne, il y a peut-être urgence à faire revenir Joël Almeida.
Ah, ils ont plein de finisseurs. Oh là là, ils sont combatifs.
Allez, Pierre Tanchois qui se bat, qui est contré par Moreira. On va réessayer avec Changé. Changé pour Tanchois.
Allez, Parfois Stano, il est grand comme un océan et parfois il est
tout petit.
Il est minuscule comme une alliance.
Rikiki.
Ah oui, mais là pour
les... Ah, je vois bien cette image là. Minuscule comme une alliance. Bravo. Il
faut essayer de mettre un panier dans une alliance. Ouais, bonne chance. Malik, c'est bon shooter. À ce moment-là, ça va être compliqué.
Bravo. Et pour l'instant, il y a eu une faute de Cédric Changé.
Vous savez, le FAP, alors sur les matchs qu'on a eu, ils nous font l'un des meilleurs matchs. Même s'ils sont, ils sont à 15 points derrière, je trouve qu'offensivement, il y a du mouvement, il y a de l'agressivité, il y a eu des belles surprises de joueurs qui sont sortis du banc, il y a de la résilience. C'est dommage que le score ne reflète pas en fait le basket qu'ils nous proposent.
Oui, surtout ces problèmes de finition.
Oui, problème de finition, Almeida, comme on l'a dit, avec 3 fautes.
Alors qu'Alexis Wang Meni était en train de s'échauffer il y a quelques instants, je lui ai fait un petit signe pour lui demander si son genou s'allait, il m'a fait un gros sourire, il m'a dit « Bon, je vais essayer, on va voir ». Mais il y avait un sourire, mais un peu d'inquiétude aussi, on ne va pas se mentir.
S'il ne monte pas en première mi-temps, je ne l'imagine pas monter maintenant, parce que je ne pense pas qu'il va être capable de faire la différence. Maintenant que le ton du match a été lancé, ce serait le mettre dans une situation un peu difficile.
On est toujours en train de poser des points à Chongqing.
C'est toujours difficile hein, pour un gabarit comme celui de Wang Meni de revenir comme ça quand on a des soucis au genou, autant le préserver.
Voilà. Il n'a pas joué plus de 20 minutes, il est complètement froid, il n'a pas pris le rythme du jeu.
En tout cas, Chongqing, Wang Meni, mais aussi on peut penser à Pierre Essomé. Les FAP, voilà, ils sont un petit peu courbettus aujourd'hui.
Le chargé de mission qui manque terriblement à son équipe.
Énormément. C'est un peu l'homme à tout faire. Hein. Ouais. C'est le Gaku camerounais.
Sa défense, son état d'esprit. Allez, Changé,
voilà.
Il va stopper un tout petit peu l'hémorragie, Cédric Changé. Mais il va en falloir beaucoup, beaucoup plus. Les garros n'existent pas, mais il va falloir en poser là en défense. Juliano, Murray, Dundao. Oh, que c'est beau, c'est dommage. Le tir de Cipriano qui ne trouve pas le filet, mais c'était une très très belle possession encore une fois.
Le ballon, messieurs, avancez le ballon. Oh là là.
On a vu le sprint là de Jovino Neto pour aller dire à l'arbitre. Il y a 8 secondes.
Ouais, je pensais que les arbitres là, ils avaient oublié de regarder le chrono de 24.
Oh là là. Ouais, tout un spectacle, hein. José Neto, le coach du Petro. Allez, Moraï. Il n'a pas besoin pour l'instant de forcer son talent. Ils sont devant confortablement. Moraï. Les bonnes mains de Brice Yaga. Il va rester 3 secondes sur la possession.
et c'est Moraes qui va sortir.
Et vous l'avez dit, il n'a pas besoin de forcer son talent, il a bien raison de jouer en équipe. Il a pris quelques shots ouverts en début de match et après il s'est un petit peu fait oublier dans le jeu d'équipe angolais. Encore une fois, c'est une marque d'expérience tout simplement.
Ouais, l'expérience, la maturité. Bon, il nous a pas fait un deuxième tir au buzzer, mais qui est là? Qui est là? Quand tout va mal, c'est Gabi.
Ou tout va bien.
Il fait en sorte que ça aille bien. Aboubakar Gakou, quel joueur précieux. Ebrite Yaga.
Bon rebond.
Comenzo rebond. Samsung qui ressort. Changé, la petite feinte. Ça ne trouve toujours pas le filet. Tankwa qui ne peut pas sécuriser le rebond. Et Gonçalves. Gonçalves qui va s'empêtrer là dans la défense de Yaga. Il s'en sort. Limite hein, de la fin de possession. Eh oui, 8 secondes.
Ça, c'est rien.
Mais là, Nieto, il n'est pas d'accord parce que c'est pas en sa faveur.
Voilà. Il est vif, Nieto, quand même.
Aïe. Regardez. Il se prend la tête à deux mains. Il rit jaune. Il se moque. José Nieto. Coach of the Year cette année, hein, avec cette équipe du Petro. Lui qui a déjà un gros palmarès.
C'est un beau mariage. Hein.
Ouais. Vainqueur de la Coupe des Amériques en 2014. Vainqueur de la Coupe Intercontinentale la même année. Et la claquette. Et derrière, il y aura une faute en faveur de Tantoua.
Puissant rebond. Ils ne sont pas grands pour l'instant, les Camerounais. Le frappe n'est pas grand, mais puissant. Ils ont des bonnes positions. Encore une fois, c'est un petit peu de réussite parce que ça peut être un N1 et ça a un impact tout à fait différent émotionnellement et bien sûr sur le score.
Alors, vous aimez mon sens du détail? Vous le connaissez évidemment.
Tomche
est revenu sur le banc avec la moitié du rouleau de scotch sur la joue. Et vous apprécierez son petit look de pirate quand il reviendra sur le parquet.
Oui, d'ici on le voit. Hein.
Il a vraiment eu des minutes intéressantes. Oui. Il en a fait quelque chose, j'ai encore 7 rebonds en un peu plus de 15 minutes.
Oui. Oui.
Vous ne pouvez pas demander grand chose en plus d'un jeune joueur.
Ils en ont surtout besoin. Terme d'impact. Oui. Il y a une poussette. Et c'est Cédric Tchangé qui sera sanctionné pour cette poussée sur Tilde Dunao.
Moi j'ai une question, monsieur, à vous poser par rapport au match de Brice et Yaga que j'ai trouvé un petit peu en dedans aujourd'hui. Je ne sais pas quel est votre avis par rapport à ça. On attend peut-être un petit peu plus de lui aujourd'hui dans un match aussi important.
Bah, il vaut beaucoup mieux que ça. Brice et Yaga vaut beaucoup mieux que ça. Celui qu'on appelle Bivias, hein, il vaut beaucoup mieux que ça. Un peu en dedans, un peu moyen, effectivement. Toujours présent en défense, mais offensivement un peu emprunté.
Oui, il lui manque, il a 0 sur 3, 3 points, un petit 3 points par exemple, ça lui donnerait un petit peu de variété dans son jeu offensif. Il n'a pas eu beaucoup de change en dehors de la raquette. Combatif, mais il n'a pas capté énormément de rebonds. C'est un match pas facile, hein, parce que finalement il joue contre des joueurs qui sont plus grands que lui. C'est un joueur qui peut un petit peu tout faire, parce que là on jouait avec, entre guillemets, 3 joueurs de... Pas de grande taille, mais on a 3 intérieurs, on va dire, quasi de formation.
Petits intérieurs, voilà. Attention.
Et lui, il joue le forward, là. Il est à l'extérieur, d'ailleurs c'est lui qui prend le shot.
Ouais, après une petite hésitation, les forces armées police du Cameroun qui n'avaient pas perdu depuis leur défaite en mai dernier contre cette même équipe du Petro et qui sont restés quasiment un an invaincus et qui ont perdu contre les Tigers de Cape Town. Voilà, quand on n'est pas habitué à perdre, peut-être que la première défaite peut faire très mal aussi psychologiquement.
Ah, c'est tout à fait. Mais ils gardent leur intensité. Ça, il faut quand même leur offrir, ils gardent leur intensité.
Allez. Gonçalves. Allez, fin de ce troisième quart-temps. Plus 14 pour cette équipe du Petro Atlético de Luanda qui déroule son basket.
Ça. Ben, fin du troisième quart-temps, le Petro Luanda continue à mener 54 à 40. Et donc, ils ont augmenté la différence de points puisque à la mi-temps, l'écart était moins grand. Ils remportent aussi ce troisième quart-temps sous la marque de 20 à 15, les mettant à 14 points devant le FAP qui n'a pas su malheureusement s'appliquer dans les gestes pour marquer les points. Beaucoup de capacité de deuxième chance ratée. Pourtant, ils auraient pu faire la différence. 29% des réussites, aucune chance. avec cette façon de shooter, de tirer, de prendre des tirs, de revenir à la marque. Hein. On voit une équipe camerounaise complètement larguée sur le plan offensif, et pourtant, on peut les voir batailler au rebond offensif, on peut les voir avoir beaucoup de ballons, mais ce n'est pas suffisant, malheureusement. Ce n'est pas suffisant pour eux. Hein, ils sont quand même à 18 rebonds offensifs. C'est énorme pour cette équipe du Cameroun. 43 rebonds au total. Alors qu'on voit une équipe angolaise qui n'a que 32 rebonds. Donc ça aurait dû être vraiment un plus pour eux. Hein, 18 rebonds offensifs. Et quand on voit les points marqués, on constate que justement, du moins les tirs ratés, on constate que justement ils sont très maladroits. Et encore une fois, lors de ce carton, on peut voir une équipe qui n'a tenté que deux lancers francs pendant le troisième carton. Ce qui est anormal sur l'ensemble du match. L'équipe de FAP n'a tiré que 4 fois au lancer franc et ils ont marqué leurs 4 lancers. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment qu'ils fassent un effort pour revenir. Il y a encore assez de temps, 10 minutes c'est suffisant pour revenir à la marque. Mais il faudrait qu'ils assurent les paniers faciles ou les deuxièmes chances. Donc on repart en direct dans ce match. 54-40 pour Luanda. Quel ballon.
Monsieur Etienne, qu'est-ce qui s'est dit pendant ce temps mort? François Henrique a été très clair, il veut de l'agressivité sur le porteur de ballon, mais aussi... Ah voilà, j'en ai un peu que le shoot dans ton grand. Il veut vraiment protéger cette peinture, mais surtout également, et ce qu'il disait, il faut jouer avec intensité, c'est de toute façon tout ce qu'il nous reste à faire.
Ah, ils ont bien raison. Ils ont bien raison.
C'est vrai qu'en termes d'énergie, elle en manque, hein, cette équipe, malheureusement, des forces armées police.
Attention, alerte! Fausse alerte!
Allez, Carlos Moraes. Moraes qui va calmer le jeu. On va faire tourner. Non, il se le garde. Pour Vander qui a hésité. Vander qui va partir. La passe!
Fais attention parce que c'est Wang Mene, hein, tout de suite qui a pris un coup. Non, ça a l'air d'aller.
Wang Mene qui a essayé de jouer le passage en
fait. Vous le verrez sur ses déplacements latéraux. On sent que c'est pas naturel non plus.
Et je vous dis, il y a une grosse erreur défensive de Eyaga qui sort à 3 points sur Big Vander et puis après qui permet le reste de l'action de se dérouler. À ce moment-ci, on doit prendre décision, qu'est-ce qu'on laisse sauter. C'est mieux d'essayer Big Vander, quand même, si je ne me trompe pas.
Je suis d'accord. Je suis entièrement d'accord. Ouais, c'est un peu ce qu'ils ont fait tout à l'heure. Ils ont fait l'impasse sur Gonçalves,
voilà.
Sur Domingos, Domingos, entre et passe et tire. Voilà, il faut regarder contre qui on défend. Allez, Eyaga, la passe.
Il n'est pas dedans encore. Wang Mene, il n'est pas dedans.
Allez, Wang Mene contre Yone Pedro. Allez, qui va bénéficier de la faute de l'entrée franc à venir pour Alexis Wang Mene. Donc s'il est diminué, il va essayer de donner tout. On le connaît, c'est un guerrier.
Véritable guerrier. Qui a un peu roulé sa boule aussi. Il a joué en Europe, en Belgique.
Et oui, en Belgique.
Dans deux clubs en Belgique. Où il a fait goûter de ses coups de coude. Ils sont affûtés, hein, ces coudes-là. Moi, je ne m'en rapprocherai pas, je peux vous dire.
En Belgique, on roule sa boule.
Les épaules aussi, d'ailleurs.
Hein. Il a pris du poids, il est bien dans sa position. Et puis, il a une formation quand même un petit peu à l'américaine. Ça veut dire que c'est quelqu'un justement qui a du plaisir à mettre des écrans, à prendre des rebonds. Il va finir de manière très agressive. Pardon.
Il a d'ailleurs évolué chez Austin Spurs.
Oui, voilà.
L'équipe de J-League et San Antonio Spurs. Allez, Moraes dans le corner. Le rebond offensif. Gonçalves, Vander. En tête de raquette, ça ne rentre toujours pas. Regardez, Kildee Doundao qui va encore se disputer, qui va essayer de chercher le ballon, mais cette fois-ci, il sera en faveur de Lialé. Remise en jeu. Joel Almeida et c'est Yaga. Lialé. Et Yaga. Bayer. Ah, il y a une boîte. Il y a une boîte là sur Almeida. Mais c'est une faute de Gonçalves.
Allez, s'il coupe Almeida, ben encore une fois, il va avoir des difficultés à créer du jeu offensif.
C'est sûr. c'est sûr. Il est coupé, coupé du ballon, les problèmes offensifs vont s'accentuer du côté des forces armées police du Cameroun.
Surtout qu'encore on joue avec les Camerounais, on joue encore avec trois intérieurs, on va dire, sur le terrain, avec Eyaga qui joue en forward, en numéro 3.
Allez, Eyaga justement qui va partir, voilà, et qui va finir près du cercle. Voilà, un peu plus d'agressivité, c'est ça qu'il faut. Il faut tout donner dans ce quatrième carton pour ne pas avoir de regrets. Allez, on a monté cette défense. On va essayer d'être un peu plus agressif. Dundao, Moraes. Moraes qui va partir dans cette percussion. Le tir de Gonçalves qui ne rentre pas. Et encore. Dione Pedro, la petite claquette pour corser l'addition. 56-43.
Il y a de la taille du poids. Ici, Vander est fait droit à l'intérieur.
Bonne mêlée, Almeida qui est vraiment coupé du ballon et cette passe qui va finir dans le décor.
On voit qu'ils s'entendent bien, vous savez, sur ce genre d'action, quand vous êtes à moins 15, vous pouvez vous gueuler dessus, mais là il y a eu un contact encore amical entre les deux joueurs.
Deux joueurs qui ont de la bouteille, hein.
Ouais, qui ont la bouteille, qui comprennent que oui, il devait partir en backdoor, mais malheureusement la passe était peut-être un peu trop profonde.
Allez, Yone Pedro, gêné aux entournures, et qui perd ce ballon. La contre-attaque, Almeida. Et regardez, Tilde Dundao. Oh, le little victime. Extraordinaire. Et effuté en plus.
Il nous fait le show, hein, quand même.
Il est extraordinaire, Tilde Dundao. Il est extraordinaire. Quelle vitesse.
Ah, oui, tout à fait. Et toujours, il est toujours à son meilleur.
Allez, il nous a coupé le souffle, on va respirer un peu là.
Temps mort demandé par cette équipe de FAP, toujours menée de 15 points. On a vu le retour d'Almeida sur le terrain et surprise, on voit l'entrée de Alexis Wangmene qui a pourtant assez bien joué lors du match précédent, mais qui n'a pas joué les trois premiers cartons, donc je pensais qu'il était peut-être blessé. Le Cameroun, équipe de FAP, s'est vraiment privé d'un joueur qui aurait pu le rapporter énormément dans la raquette, puisque très athlétique, il aurait pu bousculer que ce soit Pedro ou Moreira, et probablement poser des problèmes, causer énormément de fautes à l'intérieur qui leur aurait permis sur le plan offensif justement d'être beaucoup plus efficace. Mais au lieu de ça, il est difficile de savoir ce qui s'est passé, est-ce qu'il y a eu un problème de blessure, la personne a voulu être conservée, mais bon, en tout cas c'était difficile à savoir, on n'a pas eu d'informations à ce sujet, mais toujours utile que l'équipe de Petro continue sa danse et veut se rassurer qu'ils vont pouvoir remporter ce match. On a vu une équipe de Petro qui a fait 9 paires de balles et celle du Cameroun, les FAP, qui en a fait quand même 18, ce qui est vraiment une très très grande différence, et à ce niveau de la compétition, ça paye cash, parce qu'il faut s'appliquer dans les passes, dans les gestes techniques, ne pas marcher, il y a toutes ces choses qui font qu'on perd le ballon. Donc on repart dans ce quatrième carton, 6 minutes 48 à jouer, l'équipe de Petro a le ballon, 58-43.
Oui, on espère qu'on pourra retourner un petit peu la vapeur, mais encore une fois, Petro qui est solide, qui a continué d'ailleurs à prendre, à grignoter des points petit à petit, carton après carton. On commence à se poser la question si le club a vraiment les moyens de revenir. Alors 6 minutes 30, 15 points, ça devient compliqué.
Ce n'est pas impossible, mais c'est très très difficile. Alors, mon cher Étienne, je viens vers vous. Qu'est-ce qui s'est dit pendant le temps mort?
Alors j'étais plutôt du côté du Petro de Luanda où José Neto a été très calme, hein, pour l'instant la machine est lancée. Ils veulent tout simplement essayer de donner plus d'espace à leur jeu pour continuer à shooter et toujours alimenter, hein, ces shooters à 3 points, malgré, on le disait, un peu de défaillance à 3 points, même si ça va mieux aujourd'hui.
Alors, j'ai une stat à vous donner. Dunda, on n'a perdu aucun ballon ce soir. On sait que c'est un peu ça son problème, mais pour l'instant, il a perdu zéro ballon. Que dalle. Walou, comme on dirait chez les Arabes. Et on est chez les Arabes. Allez, Moraes dans le corner. Ne rentre pas. Le rebond de Gonçalves. Gonçalves qui va, lui, voilà, renverser le jeu. Vendeur dans le corner opposé.
Oh, oh.
Bang, 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 bang. Big Vendeur à 3 points. Allez, Meida. Compliqué. Attention à la contre-attaque. On va garder le ballon. Non, il va y aller, Gonçalves. Allez, Vendeur, pourquoi pas.
Hein. Il en revient encore.
Il remet les couverts. Ah, ça s'était téléphoné, Almeida qui va pas la donner, y aller, qui va y aller.
Mais il a eu un bon sentiment, il a regardé derrière, il a vu Big Vendeur, sinon là à mon avis ça va bien se passer. Cette
mais il a vu qu'il avait y aller, il aurait pu lui donner, mais bon,
ouais, ouais,
il va monter ses stats personnels. Ça faisait un moment qu'il était resté à 11 points. Allez, Moraes, Almeida en défense. Pedro,
il y a beaucoup de liberté, je sais que c'est une zone. Mais il y a beaucoup de liberté, ils dribblent où ils veulent, ils créent là. Voilà, encore un shot ouvert.
Kilde Dundao, il aura tout fait ce soir. Kilde Dundao.
Petit détail. Et puis, cette grand, volonté grand, de trouver grand, le shooter dans le corner. Hein. C'était le cas hier déjà, la différence c'est qu'aujourd'hui ça tombe dedans.
Mais Jacques l'a dit, leur défense de zone aux joueurs du Frappe, elle est vraiment très très permissive aussi. Allez, Bayers qui va bénéficier d'une faute. Mais c'est tellement sporadique côté forces armées et police.
Et surtout 47 points après 3 quarts et demi, c'est pas beaucoup. Vraiment
été,
pas beaucoup.
Ça a été leur problème depuis le début de la conférence. Oui, même dans leur victoire, je trouvais que 77-60 contre Fouca, c'était pas un score incroyable. Ils avaient eu. Et ils ont des limitations.
Allez, ça va repartir. Beseyaga. Beseyaga qui va finir près du cercle. Mais on l'a dit, les réactions sont tellement sporadiques. On aimerait que ce soit un peu plus continu. Vander, défendu par Wang Mene. Sundao.
En individuel, hein. Ils sont bien individuels. Ils peuvent mettre la pression.
Exactement, ils n'ont pas le choix. Allez, Dundao dans ses œuvres. Cette fois-ci.
Et je vais vous dire, sur les titules et sur les joueurs qui sont sur le terrain en individuel, pour moi ils peuvent le faire parce que y aller, c'est probablement le meilleur défenseur sur Dundao qu'on a ici dans cette conférence. Kilo pour kilo, centimètre pour centimètre, ils ont quasi la même explosivité. Et puis véritablement sur le terrain, voilà, il y a des bons défenseurs du côté de la FAP.
Et puis c'est un gros travailleur, hein, y aller.
Ouais, ben, il le montre depuis le début du match, hein, il est à 100%.
Almeida qui va perdre ce ballon.
Et surtout, il est en train de gratter les minutes de Mormann qu'on n'a pas vu depuis un certain moment.
Alors, Mormann, depuis le premier match où il s'était tordu la cheville, on se demande bien dans quel état de forme il est.
Vous aimez ce que vous appelez le body language, Malik. Si vous étiez en face de moi, à côté de Mormann, ça inspire pas la confiance, là, ce qu'il est en train de montrer.
Ça risque de le jouer, dans sa tête, ça, pour le reste des matchs. Mais bon.
Oh.
C'est le résultat de l'équipe qui compte. Hein.
Le jump hook main gauche de Pedro qui est
justement, on en
voilà, qui ressort pour Almeida. Ça, c'est un shoot d'entraînement, un practice shot. Et on le menait à 3 points.
Voilà.
Et on le menait, il s'est dit, pourquoi pas moi.
Et c'est Pedro qui se dit, ah là là, ça tombe sur mes dents comme par hasard.
Allez, on est Pedro Moraes. Moraes. En face de lui, Yayaga, Moraes, pour... Ah, pas loin de voler ce ballon, y aller dans les mains de Dundao, qui va attendre la toute fin de possession pour prendre ce... ça ne rentre pas, bon, mais le rebond Pedro, bien nettoyé par Yone Pedro, qui bénéficiera de la faute d'Alexis Wang Mene. Ils sont présents partout, dans tous les secteurs du jeu.
Pedro, il aurait été constant sur sa présence au rebond offensif et défensif. Et là, il est très intelligent parce qu'il n'a pas une mauvaise position, il va chercher une main. Et puis, il est patient, il ne va pas mettre le ballon au sol, solide sur ses jambes. Voilà, il a la petite faute. Parce que beaucoup de joueurs sur cette action, ou bien tenter d'essayer de dribbler, auraient été un petit peu trop rapides. Et Et vous savez, les gardes à ce moment-là, les meneurs de jeu, ils le sentent venir hein, quand il y a un big man qui est un peu fragile au rebond.
En tout cas, dans ce basket moderne où le poste de pivot est de plus en plus rare, ils peuvent se targuer d'avoir Yannick Moreira et d'avoir aussi Yone Pedro.
Pedro,
c'est très très
et
important.
Et puis au fin fond du banc, Big Vander.
Au fin fond du banc. Vander. Et puis tout au fond, Leonel Paolo.
Ah, voilà, voilà.
Allez, Mormann.
C'est bien Mormann.
Mais on sent qu'il a quand même du mal à accélérer. Hein. Allez, qui va finir. Ce petit tir près du cercle pour revenir en défense. Trois joueurs du FAP ne sont pas revenus. Et Vander on a réussi trop distance de Vander. Attention, ils sont en train de prendre l'eau là petit à petit. Juan Mene, Tigrimas, le ballon qui ressort.
Ah ben voilà.
Voilà, ça fait du bien, Djonga. Djonga à 3 points.
Et il ramène le match à 10 points. Ok, il n'y a plus qu'il y a un petit 2 minutes, mais bon, 10 points, c'est 10 points.
Il faut surtout avoir les bonnes attitudes en défense pour ne pas avoir de regrets. Les forces armées, police. Allez, Gonçalves. Oh, enfin, c'est joli ça. Ce départ en
bas.
Et Vander. Et Vander.
Oh là 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 là.
Oh 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 oh. Joaquim Valdelicio Vander, El Pistolero.
Wow. Il fait parler la foudre, il n'a pas fait grand chose, et puis là, quelle explosion!
Oh là 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 là! Quel tir de Vander encore une fois! Qui va nous faire tomber la foudre à longue distance sur cette défense des forces armées et police qui étaient totalement reculées, totalement arrêtées.
Oui, on parle de cette défense de zone qui a été un peu molle, moi, pendant quelques minutes, ça a permis à.
Le match n'a pas pu basculer dans l'autre sens. Cette équipe du Cameroun a essayé et a montré un esprit de résilience, mais a manqué beaucoup d'adresse, puisque, comme je le disais, sur le plan du rebond offensif, ils ont largement dominé les Angolais, puisqu'ils sont quand même à près de 26 rebonds offensifs, mais n'ont pas su capitaliser sur les deuxièmes chances, et donc la maladresse aura été au rendez-vous chez eux, 34%, 24-70, ça leur a pas permis de, à aucun moment du match, de pouvoir revenir à la marque, puisqu'on voit cette équipe angolaise qui va gagner, du moins qui est menée au quatrième quart-temps, 17-16 sur le quatrième quart-temps, mais qui a gagné les trois premiers quart-temps et qui a pu assurer... qu'on appelle ça cette victoire, parce qu'à 1 minute 37 secondes, il va falloir un miracle. Il faudrait que cette équipe de FAB joue la meilleure défense du monde avec des tirs primés à 3 points. Et d'ailleurs, ces tirs primés à 3 points du joueur angolais qui leur a permis de prendre l'avance et ne jamais reculer. Donc voilà, on y va. La balle va repartir, donc on va assister à la fin de ce quatrième carton. Balle pour le Cameroun, 70-57 pour le Petro de Luanda.
Allez, Morvan.
Bien joué, Morvan.
Ouais. Vander au rebond, Moraes, Dundeo.
Ouais, là, le temps est de leur côté.
Ah oui.
Ils sont patients, réfléchis.
Mais surtout que la défense des FAP n'est pas très très agressive.
Oui, ouais, elle n'est pas si agressive que ça.
Alors là, il y a un souci. Là, il y a un souci. Le ballon avait franchi la ligne médiane avant d'être touché par Wang Mene.
Non.
Regardez. Voilà, on voit la petite main de Wang Mene. Mais le ballon est vert.
Messieurs, il reste 1 minute 15 plus 13. En cas de victoire, Petro de Luanda terminerait deuxième. Vous savez qu'ils joueraient contre Salé et qu'ils se sont déjà joués deux fois l'an dernier.
Oh, Tchangé qui va perdre le ballon sur cette tentative de percussion. Tout va mal pour les forces armées et police.
Ouais, il faut surtout rester dans le match. Hein. Il faut, quoi qu'il arrive, il faut mettre de la pression. Et peut-être justement mettre en boîte Dundao.
Et même réduire l'écart, hein. Ça peut jouer aussi au goal average. Hein. Donc attention. Ah, Yone Pedro.
Ah, c'est bien, c'est voilà. Bien, c'est là qu'il faut mettre
c'est
la pression,
bien
sûr, il est coincé,
Dunga,
il est coincé, ben
ça,
bien
c'est
sûr.
Bien, voilà, il faut être beaucoup plus agressif, et c'est Lialé qui sera pénalisé. aller, pénalisé, c'est sa première faute. Il en a encore 4 à faire. Pour s'en donner les moyens. Allez, il va revenir en jeu, Tchomtché. Tchomtché qui a de faux airs, hein, de Yanis Antetokounmpo, je ne sais pas ce que vous en pensez, Teresa.
Mais écoutez, c'est ce qu'on lui souhaite.
Peut-être un nazis plutôt alors.
Oh non, 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 non. Là, il faut changer vos lunettes. Allez, Changé, ça va rentrer. 2 points, 2 nouveaux points pour les forces armées et police, mais on l'a dit, il en faudra beaucoup, beaucoup plus. Allez, Dundao, dans ses œuvres. Qu'est-ce qu'on va faire en attaque, Gonçalves. L'écran de Vander et Dundao qui va filer dans le corner. Regardez le drive and kick et c'est Dundao. Hey, c'est du basket d'école ça. On l'a vu Jacques, on l'a vu venir ce tir.
Et c'est facile, il termine. On l'a dit un autre jour de travail, mais il termine. Ils vont jouer les 40 minutes. Moi je dis que chaque 3 points qu'ils mettent, ça leur fait du bien parce que hier ils ont peiné. Pas ouais. Seulement hier, hein, ils ont pas encore shoté un très gros pourcentage, ce que je veux dire par là. Une quarantaine de pourcents, et donc c'est bien qu'ils se promènent dans ces émotions de se voir marquer les shots à 3 points.
Regardez, Dunga.
C'est scolaire, hein.
Oh là là. Nothing but net. Voilà, tranquille. Et cette célébration du banc, voilà, c'est sa façon à lui de célébrer chaque réussite à longue distance.
Ben, ils sont quand même à 9 sur 33, 27% à 3 points. Aïe, 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 aïe.
Ouais. Ce n'est pas l'adresse habituelle des Angolais à 3 points.
Ouais, mais de l'autre côté, le Fab n'est qu'à 4 sur... Alors, laissez-moi avoir regardé, 4 sur 23.
C'est un égard mieux.
Allez, c'est 17%. Mais bon, ils ont pas trop forcé encore. Là, vous êtes à 23, c'est pas forcé.
Et c'est la fin de ce match. On va pas jouer la dernière possession. Victoire sans coup périr en 73 à 60 pour... Le Petro Atlético de Luanda qui va composer du coup son ticket pour Kigali.
Victoire logique quand on regarde le déroulement du match.
Eh bien, fin du match 73-60 pour cette équipe de Petro qui n'a pas vraiment été excellente dans un sens puisqu'on constate qu'eux-mêmes au niveau de l'adresse ça n'a pas été... très très bien avec un 37% et pas très adroit à 3 points pour le reste de la compétition et ce sera malheureusement pour FAP une défaite. On a pu voir FAP avoir de nombreux rebonds offensifs mais jamais pouvoir être capable de capitaliser là-dessus, ce qui fait qu'ils perdent leur deuxième match, Cédina. Et ouais. On pouvait voir beaucoup d'envie, beaucoup de combativité, spécialement au rebond offensif, mais un peu trop de maladresse, n'ont pas su provoquer des fautes, puisque cette équipe du Petro n'en a pas eu quand même, ils ont eu la collective cette fois-ci à ce carton, mais l'équipe du FAP n'a pas su profiter de cet avantage. Depuis trop longtemps, je crois que cette équipe du Cameroun n'a tiré que 4 lancers sur 4, ce qui est anormal, quoi.
Je pense que je ne dirais pas que tu l'avais prédit, mais tu l'avais assez bien analysé avant le match en insistant sur le manque d'agressivité, en insistant aussi sur le fait que malgré les signes de fatigue montrés par le Petro de Luanda n'en profitaient pas. Et à la fin, ça s'est confirmé.
Tout à fait. Et je suis un peu surpris que l'entraîneur du Cameroun n'a pas fait jouer Alexis Wangmené, qui a fait un très bon match la dernière fois, qui restait sur le banc pendant tous les 3 premiers cartons. N'a pas beaucoup joué de minutes dans ce quatrième carton, alors qu'il a été efficace. Je n'ai pas compris la stratégie. Est-ce qu'il y a un problème de blessure, un problème de discipline qui a fait qu'il n'a pas utilisé ce joueur qui avait un potentiel physique qui aurait pu justement déranger les intérieurs angolais? et probablement aurait pu causer de nombreuses fautes qui auraient permis aux ailiers, aux arrières de pouvoir jouer un meilleur basketball. C'est un peu, j'ai du mal à comprendre la stratégie. Je n'ai pas de réponse, comme on n'est pas au Caire pour savoir exactement ce qui s'est passé.
Oui, il n'y a pas de souci.
Ouais, c'est bien.
Oui, oui, je pense que peut-être le joueur est blessé, on ne sait pas, mais comme tu l'as dit, si c'est un joueur qui est disponible, qui n'a aucune contrainte physique ou une blessure, c'est assez surprenant de temps passé sur ce genre de match, qui peut être déterminant quand même dans le final, parce que comme on le soulignait, les FAP n'ont pas encore joué les Zamalek et ils vont jouer également une équipe comme les Cobra Sports, je pense, qui sont assez instables, il faut le dire, en matière de résultats, mais qui peuvent faire de très bonnes choses, comme ils l'ont montré lors de leur victoire dans ce tournoi.
Tout à fait. En tout cas, ils ont toujours la possibilité d'être parmi les quatre équipes qui pourraient aller à cette phase finale qui se jouera le mois prochain à Kigali, puisque quand on voit leur programme, le prochain match qu'ils doivent jouer, ils le jouent contre le Zamalek, si je ne me trompe pas, contre Cobra Sport.
Cobra.
Il faudra qu'ils donnent le tout pour le tour dans ce match, parce que s'ils battent Cobra, ils sont quatrième, s'ils perdent contre Cobra, ben, ils risquent de descendre d'une place, et donc ça leur fermerait la route de Kigali, parce que le dernier match contre Zamalek ne leur fera pas de cadeau.
De cadeau.
Ouais. Ils jouent à la maison avec leur public. Physiquement, ils sont beaucoup plus solides que cette équipe de FAP, et à tous les postes ils ont des joueurs qui peuvent créer, des joueurs qui peuvent marquer des points à 2 points, à 3 points au lancer franc, et donc il y aura une très très grande différence. Et donc il leur appartient de sécuriser le prochain match pour pouvoir être qualifié dans ce groupe, puisque actuellement, avec leur deuxième défaite, ils restent quatrième, puisqu'ils ont eu une défaite. Ils restent quatrième, mais Foukash n'a joué que 2 matchs aussi. Là, ils vont rencontrer le Zamalek qui va leur donner la dragée haute. Et il y a 85% de chances que cette équipe de Zamalek capitalise sur ce match. Et donc, ça va être très très difficile. Mais ce qui est sûr, on voit encore trop de maladresse. Ça se voit que nos équipes ne se préparent pas très bien. Ils ratent des shoots complètement ouverts. Et il va falloir que de ce côté-là, les techniciens puissent travailler un peu plus et que voir avec la balle comment mieux organiser, que les équipes puissent se préparer de manière à nous offrir un meilleur spectacle.
Des préparations sur une plus longue période, ça j'avoue, parce que des fois tu te rends compte qu'il y a des joueurs qui arrivent à la veille du tournoi, qui ne s'entraînent même pas 10 jours avec leur coéquipier. Ça a été le cas avec Solo Diabaté, qui malgré sa clairvoyance et ses atouts techniques, c'était un peu perdu lors de son premier match contre le Monastir, et il avait souligné qu'il avait rejoint le groupe récemment. Donc, pour des joueurs moins expérimentés, c'est encore, ce ne sera pas évident, comme tu le dis. Mais surtout, pour les FAP jeunes, il faut savoir que, bon, s'ils se retrouvent avec 2 victoires, ils auront des problèmes quand même pour se qualifier. S'il y a d'autres équipes qui font mieux, en termes de scoring et en termes de gestion, surtout, des matchs où ils ne sont pas vus comme favoris.
Oui, mais de toute façon, ce match ne nous a pas apporté grand-chose. Donc, nous allons passer, de toute façon, on va wrap up ce match-là. On dit à nos éditeurs qu'on se retrouve tout à l'heure à 17h heure de Washington, 22h de Bangui, 21h heure de Dakar, 23h heure du Caire. Donc, depuis le studio de la Voix de l'Amérique, Jean Péwa Pelema, et depuis Dakar, Sedina, nous vous retrouvons tout à l'heure pour suivre le match des Zamalek qui opposera le Zamalek au Foukash de la RDC. Et donc, ne nous quittez pas, à tout à l'heure.
êtes à l'écoute de VOA Afrique en direct de Washington. Restez branchés pour nos prochains bulletins d'information. Hey. Feeling young, but they treat me like the OG. And they want the tea on me, I swear they nosy. Said he put some money on my head, I guess we gon' see. I won't put no money on his head, my told me. I gotta be single for a while, he can't control me. Uno dos tres in a race, they can't hold me. And I show my face in the case, so you know it's me. Imitation is a flattery, it's just annoying me. And I'm too about it. And the dirt that they do on my name turn to soil, and I grew up out it. Time for y'all to figure out what y'all gon' do about it. Big wheel keep rolling, rolling. I'm outside, 29, G5, Seaside. I've been losing friends and finding peace. But honestly, that sound like a fair trade to me. If I ever heard one, and I'm still here outside, front line, south side. I've been losing friends and finding peace. Honestly, that sound like a fair trade to me. Look, don't invite me over if you throw another pretty party. Looking back, it's hard to tell you where I started. I don't know who loved me, but I know that it ain't everybody. I can never love or be a busybody. Baby, if you want me, can't be turning up with everybody. Nah, can't be f***ing on just anybody. Yeah, I got feelings for you, that's the thing about it. Yeah, you know that it's something when I sing about it. Yeah, mama used to be on disability, but gave me this ability. And now she walking with her head high and her back straight. I don't think you're feeling me, I'm out here being everything they said I wouldn't be, it couldn't be. I don't know what happened to them guys that said they would be. I should see you at the top and they misunderstood me. I hold no resentment in my heart, it's that maturity. And we don't keep it on us anymore.
Nos infos sur VOA Afrique.
Retrouvez toutes vos émissions préférées sur la chaîne 555 de Canal Plus dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains. Du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique dans tout le continent africain sur la chaîne 555 de Canal.
heart, a Malibu strawberry ice cream, one spoon for two and trading jackets, laughing about how small it looks on you. Watching reruns of Glee, being annoying, singing in harmony, I bet she's bragging to all her friends saying you're so unique. So when you're gonna tell her the way to tattoo, she thinks it's special, but it's so reused. That was our place, I found it first. I made the jokes you tell to her when she's with you. Do you get deja vu when she's with you? Do you get deja vu? Do you get deja vu?
De VOA Afrique.
Participez à notre magazine interactif À votre avis du lundi au vendredi à partir de 18h CU sur VOA Afrique. Donnez votre opinion sur tous les sujets, sans tabou, politique, société, culture et bien plus encore. Vous pouvez même suggérer des thèmes sur notre page Facebook. À votre avis, l'occasion de vous exprimer librement du lundi au vendredi à partir de 18h TU sur VOA Afrique et voaafrique.com. À votre avis, c'est votre rendez-vous interactif au quotidien sur VOA Afrique.